Salut tout le monde, bienvenue sur le Tri Show, l'épisode 22, le nouvel épisode qui vous parle de triathlon et uniquement de triathlon. On accueille pour ce nouvel épisode tout d'abord les habitués avec Julien Pousson. Bonjour Julien, comment vas-tu ?
Bonjour, bonjour tout le monde, ça va très bien. Un petit big up avant qu'on commence à Mike Egros qui est tombé la semaine dernière en parapente et qui s'est cassé le poignet. Il a dû faire le triathlon de Lausanne, passer son week-end sur l'organisation du triathlon de Lausanne avec le poignet cassé. Et puis aujourd'hui, il est en opération. Donc du coup, voilà, petit big up au Mike et reviens-nous vite.
Susboule. Ensuite, on va passer à Alex de Trims. Salut Alex, comment ça va aujourd'hui?
Ouais, comme d'habitude, la routine, des petits coups de gueule un peu partout, juste à regarder des courses, puis voilà, le triathlon quoi.
Comment va ton ulcère? Ça se passe bien?
Non.
Allez, on enchaîne avec Jérémy Morel, donc de l'agence MIP. Salut Jérémy, ça va?
Ouais, bah salut à tous, moi ça va très bien. J'ai passé 3 semaines loin de vos enregistrements, plus une semaine en vacances, donc ça me fait 4 semaines de vacances, du coup je suis peinard, tout va bien. Et puis, ça fait du bien. Et puis, il y a quelques nouveautés, donc c'est cool.
On accueille une nouvelle venue. Alors, elle nous vient du sud-est. C'est Amandine.
Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil et cette toute première aujourd'hui.
Et pour finir, on a gardé entre guillemets la meilleure. Hein, désolé les autres, mais pour la fin, elle a gagné la Super League Londres le week-end dernier. C'est madame Jeanne Leher. Salut Jeanne.
Salut. Moi, tu m'as pas dit si ça va bien, mais ça va plutôt bien parce qu'effectivement, j'ai gagné une course la semaine dernière. Et en plus, je tenais à dire que c'est l'épisode 22 et mon chiffre du week-end et je crois de toute la série, c'est le 22.
Comme donc, de par hasard, ça va être un super cool. Épisode alors pour toi.
Et sachez que le 4 est mon chiffre préféré et que je fais en sorte de toujours avoir un 4 à l'arrivée avec mes numéros. Et 2 plus 2 égale 4. Et du coup, c'est vrai.
Attends, mais ça a commencé les actus déjà ou pas? Parce que là, on est sur un truc incroyable.
Il y a plein de gens qui ont des petits trucs avant les courses comme ça. Il y a des gens, c'est les caleçons, moi, c'est les numéros. Il faut que ça fasse 4.
Pensez surtout à vous abonner aux différents réseaux sociaux, le Tri Show que vous pouvez suivre sur Facebook ou Instagram. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à partager les contenus. On passe tout de suite aux actualités. Les actus, c'est tout de suite.
Et on démarre ces actualités avec un retour sur le sondage qui a été fait sur la page Instagram du Tri Show. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à cette question. Est-ce qu'il faut garder le parcours actuel du Test Event de Paris?
Ouais, et il paraît que j'ai gagné. 51% contre 49%, très serré. Merci les Russes, merci toutes ces usines à trolls. Non, je sais pas quoi penser de ce résultat, sauf que finalement, ça fait pas l'unanimité. C'est quelque chose à dire. En tout cas, la poussière est retombée. Puis comme dit Julien, ce sont les athlètes qui font la course.
Merci, ça me fait plaisir, ça me touche que tu dises ça, Alex. Et puis c'est cool au moins, à défaut de gagner le quiz du Tri Show, tu gagnes déjà des sondages, c'est déjà pas mal. Autre actualité qui revient avec les sujets de la semaine dernière, avec la PTO qui passe avec World Triathlon, le test event qui offrait enfin une bourse, la reprise de la Super League, on parle beaucoup d'argent en ce moment.
Oui, et il y avait effectivement un super article sur TriStat, une ressource très importante à suivre qui parle vraiment très très bien de World Triathlon, des enjeux et de tout, un peu de journalisme d'investigation et tout. Faudrait noter que comme Jeanne, lors du test event, on a dit à quel point on était content qu'il y ait de l'argent, mais en fait, une 11e place, ça fait $450. Bravo Jeanne pour tes $450. À titre de comparaison, est-ce que vous savez combien gagne un joueur de tennis lorsqu'il passe le premier tour dans un grand chelem?
20 000.
J'allais dire genre 25 000, un truc comme
non.
Ça.
118 000. Voilà. Du coup.
Euro ou dirham?
Dollar. Fait que moi, j'ai regardé un peu des comparaisons entre les différents circuits, qui paye pas, et ainsi de suite. Fait intéressant. À PTO Singapour, celui qui a terminé dernier, finalement, des finissants, il touche $4,000. Pour faire $4,000 à Paris, fallait pratiquement monter obligatoirement sur un podium. Et là, d'où la réflexion, est-ce que la WTCS avec la PTO qui est chapeautée par World Triathlon est pas en train de se ridiculiser parce que les différences de gains sont vraiment très différentes? Bon, Jeanne peut vous le dire, quand on est un athlète sous une fédération, on reçoit quelques aides et du coup, les gains, ben, ils sont peut-être un peu plus généreux de qu'est-ce qu'on pense. Sauf que ça fait une énorme différence. Et là, il y a la Super League qui vient d'embarquer. D'après mes calculs, à moins que je me trompe, si tu gagnes une Super League, quand même avec moins de niveau, tu gagnes autant qu'une WTCS, soit 20 000 $ par victoire. Ça fait réfléchir ça aussi. Jeanne, est-ce que tu as un truc à dire là-dessus?
Oui, bah après ce que tu dis de manière générale, c'est bien vu. Juste après, là pour le coup, on en avait déjà vite fait parler, mais le test event, traditionnellement, il n'y a pas du tout de bourse, et là c'était une bourse de Coupe du Monde, d'où que j'ai pris que $450, parce que sur une WTS 11e, ça doit être bon, j'ai plus en tête, mais ça doit être au moins 2000, je pense. Enfin, au moins, ça reste pas grand chose. C'est vrai quand on prend genre au niveau mondial, le meilleur niveau, tu fais 11e, t'as 2000, comparativement au tennis, c'est rien, mais bon, c'est comme ça. Après, oui, c'est sûr que la Super League, c'est un circuit qui fait beaucoup de bien aux athlètes financièrement. Après, ça va que jusqu'au top 10, bon, on est que 20 au départ, donc statistiquement, t'as plus de chances d'être dans le top 10, mon Dieu, c'est du 50-50, quoi.
Mais surtout quand à peine la moitié termine la course, mais
ouais. Non, après je sais pas comment ça va dans les classements pour genre s'il y en a que 8 qui finissent, si les 9 et 10e qui ont été sortis en dernier prennent une prime ou pas, mais enfin bref. Mais la Super League, ça fait beaucoup de bien, mais après il reste quand même que ça fait beaucoup de bien quand t'es premier, deuxième, troisième, 4, 5, 6, mais bon, j'ai plus les primes en tête, mais je sais que par exemple 10e c'est $1,500, c'est pas non plus genre un truc de dingue. Et comme un peu d'habitude, comme en WTCS, quand tu gagnes tout le temps, même si comparativement à la PTO, c'est rien, mais quand tu gagnes, bah déjà, tu as des aides, tu as des sponsors, tu as des sites, tu as des ça, donc tu as de l'argent qui rentre quoi qu'il arrive. Et c'est plus quand, je sais pas, tu es entre 15 et 50e mondial, où bah tu fais tous les déplacements, tu payes tes coupes du monde, tes sites et ça. Bon, tu as parfois des aides fédérales. Après, je sais pas comment ça se passe partout. Je sais que les Suisses, par exemple, ils payent leur voyage. Moi, avec le Luxembourg, c'est surtout le comité olympique qui me donne un budget. Après, bah quand je le dépasse, c'est de ma poche. Ça varie beaucoup entre les fédés, entre les politiques aussi de la nation, on va dire, si le sport est mis en avant ou pas. Mais je pense que, bah j'espère que le fait que PTO et World Tri vont travailler ensemble, si ça peut aider un peu le court de distance, je dis pas non. Mais en tout cas, par rapport à quelques années auparavant, c'est sûr que la Super League, ça, je vais pas dire ça révolutionne, parce que ça reste que c'est toujours une certaine partie des athlètes qui vont en profiter, et pas forcément ceux qui galéraient déjà de base, mais en tout cas c'est, on va pas cracher dessus, et ça fait quand même plaisir.
D'ailleurs, j'avais repéré un petit tweet, ou je sais plus si c'est un tweet ou sur ou une story Insta de Lionel Sanders qui proposait aux athlètes de World Triathlon s'ils voulaient pas venir faire quelques courses sur le long, histoire de ramasser un peu des billets pour se moquer un petit peu du prize money sur le test event.
Ouais, et dernier truc que je veux ajouter, Kona, c'est $65 000, alors qu'une PTO, quand on gagne, c'est 100 000. Et qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? C'est une Ashley Gentle qui ramasse un après l'autre les chèques à 100 000. Et finalement, elle ne vient pas faire le championnat du monde de mi-Ironman. Et c'est un peu ça la tendance.
50 000, tu ne te déplaces pas pour 50 000. Quand tu gagnes 100 000 à chaque course, tu ne viens pas te déplacer pour 50 000.
Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, en fait,
on est en
train de créer une sorte de situation sans fin, où on va avoir de plus en plus de mal, finalement, à avoir des plateaux complets. Voilà.
Et alors, là, tu ne nous rajoutes pas que Ironman va mourir?
PTO a plié le game, normalement, tu dois dire. Ouais.
Non, mon hypothèse, elle est un peu différente. Je pense que juste qu'il va y avoir une séparation entre les deux, parce que on va avoir des profils d'athlètes de plus en plus séparés. Je pense qu'il faut c'est une sorte de sujet qu'il faut réserver pour un long épisode prochain.
Après, c'est vrai que si t'as que 20 athlètes sur PTO, il en reste quand même pas mal qui vont aller prendre les miettes sur Ironman.
La question, c'est plus, est-ce que les têtes d'affiche de WTCS vont pouvoir résister à l'appât du gain sur PTO? Parce que c'est eux les spécialistes, en fait, pour cette distance-là.
Je vous propose qu'on enchaîne sur les nouveautés matérielles et geek avec toi, Jérémy.
Ouais, parce que pendant mes vacances, j'ai reçu pas mal de petits mails. Alors, j'étais un petit peu à la bourre. Il y a eu quelques nouveautés, genre BMC qui me disait « Oui, on a un nouveau vélo de contre-la-montre ultra supersonique. Si vous voulez découvrir les images, n'hésitez pas à revenir vers nous. » Alors, du coup, je leur ai dit que le vélo, on l'avait déjà vu à l'Eurobike et que ça servait plus à rien d'en parler. Si ce n'est si vous voulez nous le faire tester. Sinon, dans le microcosme cyclopédique, il y a quand même quelques choses qui sont cool avec des marques françaises, enfin ou à la base françaises en tout cas. Il y a la marque Origine du coup qui a été élue gravel de l'année par la Grinta, qui est un magazine qui est assez connu dans le monde du gravel, donc c'est plutôt cool pour eux et ça prouve que c'est une marque qui devient de plus en plus fiable avec des tarifs raisonnables. Ce qui plaît plutôt à Alex. Et sinon, il y a toujours dans le gravel, pour ceux qui veulent faire la S-Grail 100 de Yann Frodeno au mois d'octobre, il y a Time qui lance un nouveau gravel qui accepte de recevoir en fait des pneus un petit peu plus gros que précédemment. En gros, ils ont élargi les bases et puis ça permet de mettre des pneus jusqu'en 45 mm de large sans basculer sur des roues en 65. Et en gros, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de pseudo VTT des années 90 qui sont en train de revenir, des gravel sans suspension. Et du coup, du gravel qui a aucun sens à mes yeux. Du coup, c'est assez cool que la marque Time revienne un peu dans le game de ce qui se fait. C'est dans un marché de niche dans le gravel, mais Time a perdu de sa superbe, mais encore là, quoi.
En fait, moi, je dirais même, est-ce que Time est encore dans son temps? En fait, juste pour expliquer pour le monde, ils ont une méthode de fabrication qui est vraiment différente. C'est leur machine donne des super belles images pour les médias sociaux et ainsi de suite, mais en fait, c'est un peu dépassé dans le sens que c'est une sorte de tresse qu'ils font. C'est comme une chaussette carbone. C'est génial, c'est super beau, mais en fait, c'est super limité point de vue possibilité dans les formes. Dans les formes et tout, ils ont des contraintes qui sont assez malheureusement différentes. Puis faut pas se mentir non plus, Time joue la carte française, etc. Mais la compagnie a changé d'investisseur à plusieurs reprises et maintenant on parle un peu d'une usine en Europe. Évidemment, c'est probablement l'Europe de l'Est et on fait exprès d'être un peu discret sur la vraie origine. C'est dommage. Pour les pédales, je vous les recommande parfaitement, c'est des super bons produits. Par contre, c'est plus français non plus, c'est la propriété de SRAM maintenant.
Et sinon, toujours loin des vélos électriques, loin des stations, il y a Trek qui a sorti une version SL de son nouveau Madone avec l'espèce de petit réacteur à l'arrière. Du coup, un vélo pour le pauvre, pas pauvre, puisque il sort quand même le kit cadre, donc 2 500 € moins cher pour 300 grammes de plus seulement que le tout haut de gamme. Mais on est à quasiment 4000 balles pour juste le kit cadre et on est à 6 000 € équipé en 105 DI2 avec un vélo à 8,4 kg. Alex, je sais que toi, ça te fait un petit peu râler ce genre de prix, surtout pour un vélo qui est dit accessible.
Ouais, ben moi, j'avais envie d'écrire à tous les journalistes qui ont osé mettre dans leur titre « Nouvelle offre accessible » parce que en fait, on essaye de… En tout cas, où est la rationalité dans ces prix-là? Surtout que c'est des poids qui sont astronomiques comparativement au vélo avec des freins classiques. Est-ce que le poids change beaucoup de choses? En fait, faut pas oublier l'importance des périphériques. Si tu as des roues lourdes, en tout cas l'aspect de l'inertie, l'impact des pneus, etc. Moi, ce qui me fait rire un peu, puis j'adore Trek, c'est je trouve que le vélo est incroyable, etc. Mais à chaque fois, ils nous parlent d'une qualité de carbone avec le thème OCLV 900, 700 ou 500. C'est un discours totalement marketing parce que un vélo qui utilise que la seule fibre unique, ben ça existe pas. Un vélo, c'est fait de plusieurs fibres. Même des fois, c'est pas du carbone, c'est de la fibre de verre et il n'y a pas de mal à l'utiliser. Mais l'objectif, c'est d'avoir des zones qui sont très rigides et des zones qui sont beaucoup plus flexibles pour créer le confort. Et c'est une sorte de combinaison super complexe qui fait la qualité d'un vélo et ça aussi explique le prix du vélo parce que plus on prend de risques à faire quelque chose de léger, plus ça demande de la recherche et développement, des casses dans les prototypes et ainsi de suite. C'est ça qui fait le vrai prix pour Trek et ainsi de suite. Moi, je me demande si cette offre-là, elle vient pas du fait que le marché du vélo est en train de changer parce qu'en ce moment, il y a énormément de monde qui se retrouve avec des stocks de vélos, des vélos qui sont très chers et le marché en veut plus.
Du coup, le vélo, c'était mieux avant, c'est ça?
Exactement. Non, mais ouais, c'est drôle parce que quand j'étais vraiment dans l'industrie, j'allais dire à tout le monde, ouais, les disques, c'est l'avenir et ainsi de suite. Et en fait, ben non, pas du tout, quoi. T'as autant de plaisir avec un vélo. En tout cas, ça dépend. Je sais, si vous avez le luxe d'habiter dans la Côte d'Azur et de monter des montagnes, descendre, etc., c'est mieux le disque. Mais sinon, si c'est comme moi où il y a juste une montagne de 200 mètres.
Oui, je pense que tu roules aussi, il faut avouer. Hein, c'est parfait, même sans les freins, ça passe. Hein, Alex.
Ah, je suis en pleine bourre, là, je m'entraîne, là, je fais un demi-marathon.
J'espère que les temps limites sont pas trop serrés. Allez, on passe sur les résultats que vous auriez pu louper ce week-end et du côté du cross triathlon avec le Xterra Nouvelle-Aquitaine.
Ouais, le Xterra Nouvelle-Aquitaine qui se déroulait donc dans la région bordelaise, une région chère à notre ami Julien, hein, grand connaisseur de vin, il me semble, non ?
Pas du tout. Ok. Moi, ça aurait pu marcher, hein, mais non, pas là.
C'est une régulation alcoolique anonyme, ça.
En tout cas, la victoire pour Soled Marnoni chez les élites de l'US Palaiso. Chez les hommes, c'est Jules Dumas qui remporte la course de Montpellier de triathlon. Il y avait plusieurs formats d'organiser avec un format full, un format médium et un format light sur lequel on a pu retrouver d'ailleurs l'animateur vedette Shun qui a pris la 34e place sur le format light. Donc bah bravo à lui parce que moi c'est quelqu'un que je trouve très sympa et qui anime très très bien les différents événements. Je sais qu'Alex il est pas forcément fan de tout ça mais moi j'aime bien quand il y a de l'ambiance et lui c'est la maître.
Allez, ça parle des copines. Tu veux qu'on parle de toutes tes copines peut-être encore ? Tous tes copains, toutes tes copines, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est cool, je parle de mes potes en fait. Big dédicace à Shun de. Non mais ouais, franchement c'est quelqu'un qui fait bien les choses. Je suis 38. Et d'ailleurs derrière l'organisation du Xterra Nouvelle-Aquitaine, on retrouve Time to Sport, donc une organisation qui organise aussi notamment le Challenge Vieux Boucou.
Ouais, d'ailleurs Challenge Vieux Boucou avec une, on en reparlera, mais une startlist qui est incroyable annoncée avec, enfin j'ai entendu hein, qu'il y aurait le 4e championnat du monde 73, qu'il y aurait également Martin Van Riel, Yele Gins, Henri Schumann et quelques autres noms. On verra qui viendra, mais
et toi aussi.
Et moi aussi, mais pas sur le même format. Du coup, il y a Jérémy Morel aussi qui vient faire le triathlon CD aussi, il paraît.
Ah, ben c'est cool de me l'apprendre, merci Lynn.
Ouais, j'ai tenté.
Et par contre, ce qui veut dire qu'il doit y avoir quand même un petit peu de pognon à la clé pour qu'il y ait autant d'athlètes, ils doivent sûrement un petit peu les rincer. Donc, tu vois, Alex, il n'y a pas que les primes de course à la victoire, il y a aussi un peu de primes de départ, donc c'est pas mal. Des fois, il y a des organisateurs.
3 500 € à la gagne sur un challenge.
Ouais. Et en parlant de sous, c'était Time to Sport, c'est aussi une organisation qui proposait le fameux triathlon sur le fameux triathlon low, qui était à tarif très bas et qui permettait aux gens d'avoir le tarif le plus bas possible proposé par une organisation privée. Parce que forcément, les associations, c'est un peu différent. Mais donc, vous aviez pas de ravitaillement, c'était en autonomie, il n'y avait pas de médaille, il y avait tout était payant, etc. Si vous vouliez des options.
Il n'y avait pas de bénévole au Carrefour, du coup, le mec s'est mangé la bagnole, du caviar.
On a quand même, en tout cas, la chance en France d'avoir des personnes comme ça qui organisent beaucoup de courses et c'est pas forcément le cas dans tous les pays, je trouve.
Non, il y avait des bénévoles, il y avait de la sécurité, justement. Donc, tout s'est bien passé et ça s'est pas forcément bien passé sur une autre course, mon cher Julien. Il me semble.
Ouais, lors des championnats du monde Ironman 73, donc le week-end dernier, il y a eu de nouveau un décès sur la partie natation, il me semble. C'est un sujet d'actualité, malheureusement, puisqu'on en a déjà parlé cette année sur l'Ironman d'Hambourg. Il y a également eu deux personnes décédées la semaine dernière sur le 73 en Irlande, et également en France cette année, je crois que c'était à Aix sur le 73. Donc voilà, c'est pas forcément évident. On en a un petit peu parlé la semaine dernière déjà, mais c'est pas des nouvelles qui font plaisir.
Je vais être positif. Il y a eu moins de morts cette année qu'en 2022. J'ai découvert qu'il y a une page Wikipédia qui fait juste ça, soit répertorier tous les morts. Je sais pas c'est qui est derrière ça, c'est comme qu'est-ce qui te prend et ainsi de suite, mais ça reste que c'est super intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment de solution et qu'on laisse faire, etc. Ironman est sûrement un peu dans le coin, dans les punis, face aux assurances et tout, parce que ça devient de plus en plus complexe. On pensait que le rolling start, le fait de laisser partir le monde quand il voulait, était une solution infaillible. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'effet. Je sais que pour beaucoup, vous parlez d'un certificat qu'il faudrait passer pratiquement pour se dire que oui, je suis apte à aller nager dans eau libre, etc. J'y ai pensé, ça m'arrive de penser. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que l'anxiété d'une course, le fait de prendre le départ face avec beaucoup de monde tout autour, etc., ben ça se réplique pas, ça s'apprend pas. C'est sur le moment, faut être confiant, faut avoir fait les choses. Pour être allé à quelques courses Ironman en tant que spectateur, j'ai toujours été effaré par le nombre de personnes au bout de 100 mètres qui s'accrochent à une bouée parce qu'ils sont juste en panique. Et du coup, j'y pense.
Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Alex, avant que tu dises ce que tu as pensé. C'est que par rapport à ce certificat, justement, ce serait peut-être intéressant de, avant de se lancer, là, c'est la natation qui pose problème, mais avant de se lancer sur une natation de 3800 mètres où tu vas prendre une première bouée parfois à plus de 1000 mètres du bord, bah, peut-être que ça peut être intéressant de faire un triathlon sprint ou c'est 800 mètres, ou un triathlon de boucle, ou quelque chose qui est un peu plus accessible au début, au lieu de faire comme, j'imagine, 60%, 70% des participants sur Ironman. Leur premier triathlon, c'est un Ironman, et je suis d'accord avec toi, le stress de la course, tu peux pas le revivre à l'entraînement, en tout cas, c'est très compliqué. Mais si tu le revis, si tu peux le vivre et t'entraîner à vivre ce stress-là sur une distance plus courte, je pense que c'est quand même moins risqué et c'est aussi moins compliqué en termes de secours si tu te lances pas sur une épreuve où ils sont 3000 au départ.
En fait, depuis que Dorian a fait podium au test event, je suis toujours d'accord avec toi, je l'avais dit. Non, mais c'est un excellent point et en fait, faut le rappeler que on monte pas en Ironman à sa première course et qu'il faut aller un après l'autre. Sinon, moi, j'ai pensé, en fait, puis j'étais assez étonné, pourquoi on laisse pas les athlètes nager directement avec une bouée? Ça existe, le module, il existe. Tu peux nager avec une bouée sans que ça gêne les autres. Je sais que ça ferait toute une différence.
Mais non, mais attends, Alex, tu peux pas dire ça. T'imagines, déjà, on a des départs où il y a 200, 300 personnes, 400, 500. Tu vas te retrouver avec des bouées, des gens qui vont s'en mêler dedans.
Non,
ça va
devenir n'importe quoi. La bouée, elle est vraiment ultra proche de toi et elle est par-dessus. Normalement, elle doit pas gêner le monde. Et l'autre truc...
Bah, tu sais comment faire. T'as déjà fait des triathlons. C'est des compétitions de saumon. Qu'est-ce que tu veux?
Non, il y a longtemps, ça a quand même changé avec le Rolling Start et tout. Et l'autre questionnement que je me pose, est-ce qu'il faudrait revenir à un vrai départ avec des vagues? Parce que avant, quand tu avais des vagues et qu'il y avait 8 minutes entre chaque vague, qu'est-ce qui se passait? C'est que les mauvais nageurs se plaçaient en arrière et en fait, elles avaient un temps de répit à être tranquilles pendant 5 minutes dans le sens personne n'allait les dépasser, elles nageaient dans leur coin et ainsi de suite. Ça te permet d'être dans l'eau, de faire ton affaire dans ton coin et ainsi de suite, puis tu sais, de comme... Alors que là, la personne, elle rentre dans l'eau et sans cesse, il y a quelqu'un qui revient par-dessus parce que... En tout cas, ça, c'est une théorie, mais c'est juste que je pense que Ironman doit absolument trouver des solutions rapidement parce que s'il y a un manque de bénévoles, s'il y a de moins en moins de monde qui sont capables de faire la sécurité sur l'eau, s'il y a des accidents toutes les semaines et qu'on est devenu le sport où il y a le plus de morts... Ben, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas laisser ça comme ça.
Après, j'ai aussi l'impression que dans le triathlon, c'est que la natation est connue pour être genre on dit attention, ça va bastonner et tout, et c'est comme si les gens se seraient un peu pris au jeu et se disent ah ben si ça tape pas la natation, c'est que c'est pas une natation de triathlon. Du coup, ils disent bon bah je sais pas, là je fais une hypothèse de comptoir, genre ils mettent leur petite pierre à l'édifice en disant ah ben moi aussi je vais aller donner un petit coup à droite à gauche histoire de dire oui, le triathlon, c'est vraiment la baston, effectivement. Après, c'est aussi un peu parfois la baston à la première bouée.
Alors moi, j'ai un petite idée quand même, c'est que pour le coup, Alex, je suis vraiment d'accord avec toi sur le triathlon, c'était mieux avant, ou en tout cas au moins différent. C'est que avant, les gens, ils se mettaient au triathlon parce qu'ils trouvaient ça cool, etc. Maintenant, il y a eu tellement de marketing fait par Ironman que les gars, ils s'inscrivent pour faire un Ironman. Après, ils feront plus jamais de triathlon de leur vie, probablement qu'ils feront du crossfit ou autre chose, mais ils feront leur Ironman, ils seront contents, ils seront finishers, ils auront la médaille. Et bilan, s'ils mettaient des bons cut-off vraiment plus sévères, déjà, ça limiterait le nombre d'inscrits avec montrez-nous un classement où vous avez fini un CD en moins de 3 heures, un half en moins de 6 heures. Et puis après, vous aurez le droit de vous inscrire. Donc déjà, ça permet, comme dit Julien, d'avoir des marques entre guillemets, et puis ensuite ça permet aux mecs de se forcer à s'entraîner, déjà d'avoir fait des courses, d'avoir pris deux trois claques dans l'eau sans paniquer, et après de se lancer sur 3800 mètres.
Je suis d'accord avec Jérémy sur tout l'aspect marketing, effectivement, que Ironman englobe ces dernières années, et je suis d'accord avec toi Jérémy, mais au final en fait Ironman en ce moment est en train de faire l'inverse, moi je le trouve justement sur les qualifs des championnats du monde, on en parlera peut-être après. Mais justement, sur les dossards, par exemple, les slots attribués aux femmes, C'est-à-dire qu'en fait, il y a le programme Women for Tri. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont populariser et donner beaucoup plus d'accessibilité au championnat du monde pour les femmes. Et en l'occurrence, ça va complètement à l'encontre de ce que tu disais. C'est-à-dire que toi, tu voudrais qu'on mette des critères justement d'accessibilité, justement de temps et d'aptitude sur les courses. Et en fait, ils sont en train de faire l'inverse sur des courses qui sont censées être élites. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir de plus en plus, donner de plus en plus de dossards à des personnes qui ne sont pas forcément...
Et il y aura de plus en plus d'accidents, du coup. C'est ouais. Fantastique.
Et effectivement, là où tu disais que le tri a changé depuis 10 ans, moi, je me suis mise au triathlon il y a 10 ans, sur des petits triathlons régionaux, donc de Carqueiran, de Hyères, enfin voilà. Et les départs en mass start n'étaient plus, ne sont plus les mêmes départs que maintenant. C'est-à-dire que l'esprit a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait du respect, je trouve, entre les corps des nageurs. Et maintenant, les gens, je trouve que c'est très... ça devient un petit peu trop dynamique, c'est-à-dire que les gens se nagent dessus, s'attrapent les bras, s'attrapent les pieds, se tirent les combis, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années, je trouve. Et forcément, ben, ça se retrouve sur les départs Ironman, sur les courses un petit peu plus élite, on va dire.
Ça, c'est le côté viril de la natation, c'est un aspect très français.
Je parle pour les femmes, parce que les femmes font les départs, fait, ils font les départs hommes et les départs femmes séparés. Et ne serait-ce que chez les femmes, j'ai trouvé qu'il y avait une rage qui a évolué depuis ces dernières années. Alors, c'est peut-être personnel, mais effectivement, je trouvais que les départs étaient différents.
Est-ce qu'on serait pas sur un bon petit débat en bois, là, par hasard, au lieu de terminer les actus proprement avant de passer à on refait la course?
Ouais, on s'est un petit peu emporté vis-à-vis de cet actu-là. Je pense qu'effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un bon débat en bois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'effectivement, le triathlon a changé ces dernières années. En attendant, on va passer aux courses du week-end. C'est on refait les courses. Allez, on refait les courses, un programme assez chargé, on commence tout de suite avec la Super League Londres. Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en
Personne
parler de cette course
hein.
Parce que je sais pas s'il s'est passé des trucs là-bas.
J'ai pas regardé moi personne.
T'as même pas regardé Jeanne la Super League Londres? Oh là là là.
J'ai regardé la course des garçons mais j'ai pas regardé celle des filles.
Mais qu'est-ce que tu faisais?
J'ai regardé, mais d'un peu derrière, en fait.
On va commencer donc par le récap de la course. Tout d'abord, les points positifs. Tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait du monde, que c'était encore une épreuve sympa, on le sait déjà. Londres, c'est une belle épreuve. Ça l'a été chaque fois qu'il y a eu une épreuve là-bas. C'est une ville qui sait accueillir. Et moi, je suis pour les triathlons urbains comme Londres ou comme Paris, d'ailleurs, mon cher Alex.
Jeanne, est-ce que ton estomac va bien?
Oui, RAS. J'ai bu un coca après la course pour... au cas où, éliminer toutes les bactéries.
Alors, le circuit maintenant, le circuit était dynamique. Ça aussi, pour moi, c'était un gros point positif. On a vraiment pris du plaisir. C'est ça, moi, que je veux voir en Super League. Sur WTCS, je m'en fiche un peu. Mais par contre, sur Super League, c'est ce que je veux voir. C'est du spectacle, des virages, des relances. Une Jeanne là, qui est à chaque fois là, qui fait l'élastique dans le groupe, qui nous fait peur à chaque fois. Voilà, c'est du suspense. Quoi.
J'ai fait le spectacle. Moi, j'étais là pour faire le spectacle.
Tu fais crier mes filles.
C'était pas 2h du mat'
en fait
fois-ci.
C'est drôle, autant je suis d'accord avec toi Julien, autant je pense que ça devrait être plus gris que noir ou blanc là-dessus. Il y a des endroits qui sont un peu sketch dans le parcours vélo quoi. Je pense que Jeanne va être en accord avec moi là-dessus d'ailleurs.
Disons que la route c'est déjà été un peu pas ouf l'an dernier, mais derrière l'hôtel là où c'est entre guillemets la seule un peu ligne droite, il y a bon déjà de base un petit dodane et tout ça, à la limite c'est la vie, mais la route est vraiment un peu pourrie quoi. Après c'est pas une zone où il y a des voitures qui passent tout le temps, donc ils ont pas,
il fallait pas qu'il pleuve, ça c'est sûr. Sous la pluie je pense que ça aurait été un petit peu différent parce qu'il y avait des petits secteurs pavés aussi.
Il a plu en fait à la fin de notre échauffement, donc je me suis dit oulala, mais d'un côté je me disais vu tous les vires et compagnie ça va peut-être les calmer un peu, elles iront un peu moins vite, ça pourrait faire mon affaire. Et au final, le soleil a bien, je pense, ça a bien séché un peu tout. Après, les pavés, par exemple, ils étaient pas trop dans les virages. Et la section pavée était vraiment microscopique sur le papier. Enfin, déjà, la boucle faisait 1 km, mais je pense qu'on avait quoi, 50 mètres, 100 mètres de pavés à peine. Mais c'était assez pour, c'était pas les pavés de Paris. Là, c'est des bons gros pavés qui te.
Et vous qui avez regardé du coup la course, vous avez regardé sur quelle plateforme? C'était comment la réalisation? Moi, je vous avoue que j'ai pas regardé encore.
Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, on abordera un des problèmes, liée à la réalisation. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. J'attendais qu'une chose, honnêtement, c'est que le drone se prenne large, parce qu'il y avait un drone qui faisait en FPV, donc qui était piloté donc par un droniste et qui passait à chaque fois sous l'arche, mais qui passait à ras l'arche. Et à chaque fois, je me dis, oh putain, il va se la prendre. Mais non, c'était dommage.
Sur la réalisation, en fait, c'est un bon point, dans le sens que ça donne un show de 2 heures et qui est super condensé et qu'il n'y a pas de temps mort et tout. Et du coup, c'est génial, en fait. Tu sais, le format enduro qui, moi, me plaisait à moitié d'une certaine façon, je trouve que c'est beaucoup plus fort, finalement, comme parce que tu comprends qu'il y a une course à l'avant et une course à l'arrière, dans le sens que t'as une élimination l'une après l'autre. Et là où j'étais très étonné, c'est de voir qu'on était capable de revenir de l'arrière. Si on prend le dernier relais de la course féminine, c'est assez fou parce que t'avais 2 athlètes en avant, soit Caldwell et... je sais plus qui avait fait la différence, et tu pensais que la course était finie, surtout avec un format comme ça, parce que moi je...
Mais non,
Jeanne, elle a juste décidé d'appuyer sur le bouton turbo juste à la fin.
Non, mais c'était effectivement bien au niveau de la réalisation, etc. Il manquait juste peut-être des commentaires en français un peu plus boostants, et puis moi je trouve que voilà, ce serait encore mieux d'avoir des commentaires vraiment qui matchent avec de la dynamique, du punch, et puis quitte à ce que ce soit excessif, moi je trouve que c'est ce qui collerait le mieux pour ce genre d'événement.
Mais bon. Du coup, j'ai plus suivi en français. Vous avez regardé sur Eurosport
ou
l'équipe?
Je regarde pas en français, donc j'ai regardé en anglais. Mais je parle des lives gratuits qui sont proposés en direct, et Eurosport est pas gratuit. Donc voilà, moi je regarde sur Super League et sur YouTube.
Que l'équipe, ça a été diffusé après ou c'était en live?
En rediffusion.
Okay.
Alors, on va attaquer les points négatifs. Effectivement, on a vu une moto qui était très proche des cyclistes. Alors, ça, Jeanne, tu pourras peut-être nous en parler. Pour nous, c'était un petit peu problématique parce que, bah, comme d'habitude, si vous mettez une moto devant des coureurs, bah, ils bénéficient de l'aspiration de la moto. Et là, elle était vraiment proche.
Et vous qui avez regardé justement avec le drone, est-ce que c'était plus intéressant les images de drone ou les images de moto? Parce qu'il faut bien avoir des images à un moment donné, et il y a les caméras fixes, on en a déjà parlé.
Non, mais les deux. Les deux, mais tu peux t'éloigner, ou caméra fixe, ou drone, mais où tu t'éloignes.
Est-ce qu'on aurait pu s'en passer de cette moto?
Oui, on pouvait s'en passer, oui.
Attends, j'ai le point qui tue. Je tiens à rappeler que à Montréal, il n'y avait pas de moto pendant tout le parcours et que c'était juste des caméras fixes, sachant que Super League a un circuit de même pas 1 km. C'était le circuit parfait pour ça. Et le drone, honnêtement, là, je pensais à ça. Moi, j'ai un drone chez nous, là, je peux le mettre 40 minutes dans les airs non-stop et filmé. Et en fait, il n'y a rien qui t'interdirait à Super League d'avoir...
Ouais, mais Londres-Montréal, ton drone, il le fait en 40 minutes, parce que ça fait loin quand même pour filmer.
Oui, non, il fait tout mon drone. D'ailleurs, j'en ai perdu un.
Tu l'avais pas perdu,
ouais,
il n'y a pas longtemps?
Je l'ai remplacé. Je suis pas si fidèle que ça.
Bon, Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des... Bon, est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus déjà ou pas?
Bah, pendant la course, par exemple, à un moment, j'ai vu dans les messages que vous avez dit que la moto passait très proche en transition. Ça, je sais pas si on était à pied ou on était en vélo à ce moment-là. Enfin, ça m'a pas choqué en tout cas. Mais par contre, j'avoue que sur le troisième round, quand il y avait Sophie et Taylor devant et Bess Kate ensemble et moi, plus ou moins dépendamment des moments avec ou pas avec, je me suis dit, en fait, il y a 2 groupes de 3, quoi. Et t'as la moto, Taylor, Sophie et nous trois. Et j'avoue que c'est le seul moment où je l'ai vraiment vu. Et là, je me suis dit, bon, ils font un peu chier quand même parce que bah, elles vont partir à 2 et nous, on va se battre pour la 3e place. Et bon, vu qu'il y avait Bess, je me disais, on va se battre avec Kate pour faire 4e, quoi. Mais bon, bon. Après, c'est vrai aussi ce que disait Julien, c'est que bah, il y a un moment, si on veut des images, le drone, c'est bien, hein, ça prend d'en haut et tout. Mais c'est vrai que pour voir, je sais pas, moi j'ai pas fait attention aux images, je l'ai dit, mais je sais pas s'il y a moyen de voir la tête, comment, si tu vois les gens, un peu leurs expressions, ça peut être intéressant aussi, même si c'est pas le sujet pur à ce moment-là. Mais je pense que c'est difficile de trouver le bon compromis là, vu que ce qui était compliqué, je pense, pour les motos à l'heure des charges, c'est que avec tous les vire-vire, tu peux pas tout le temps anticiper la relance de l'athlète, donc faut que tu sois pas trop loin pour bien filmer. Après, je sais pas au niveau technologique des caméras.
Ça, c'est pas la décharge de la moto, c'est le parcours, il est comme ça, donc après c'est à l'organisateur de...
Oui, mais après tu peux anticiper, tu dis bah je vais prendre le virage beaucoup avant, mais dans ce cas-là tu filmes pas le virage. Après, il y avait des caméras fixes, hein. Dans le demi-tour, il y avait une caméra fixe. Il y en avait une dans le demi-tour à pied aussi, je crois. Mais bon, il n'y en avait pas 15 000 non plus, mais bon, après, c'est... Là, peut-être en l'occurrence, ça m'a pas trop pénalisé. Je pense que aussi, ce qui était en termes de aspiration, en tout cas pas, niveau dangereux, ça je sais pas, mais au niveau aspiration, je pense que la route, la seule qui était à peu près longue et plate, elle était tellement pourrie que bon, forcément, ça t'aidait, mais je veux dire, tu pouvais pas aller à 50 à l'heure sur cette route déjà parce que fallait freiner pas trop loin vu que t'avais un virage et il y avait tellement de successions de virages que la moto, évidemment, ça a aidé. Mais c'est pas comme si ça avait été une galette en ligne droite continue où là la moto aurait fait une diff incroyable.
Juste un dernier point, il y a un moment la route elle est assez large et il y aurait eu moyen de créer une sorte de voie réservée à la moto où les athlètes pourraient pas avoir accès. Et en fait, c'est ce qu'on voit.
Ouais, mais c'est justement l'endroit où je parle. Je pense que c'était le seul endroit assez large pour ça.
C'est ça, c'est qu'en fait, puis il faut pas faire d'omerta, etc. Il y a plein d'athlètes qui sont super conscients de ça, de la fait que être en avant, derrière la moto, c'est un avantage et que c'est une sorte de récompense. Je sais que c'est un sujet que j'ai déjà abordé en Grand Prix, qu'un Tony Moulet m'a dit que c'était le jeu, puis que c'était comme ça, puis que s'il pouvait prendre la moto, ben il le faisait, puis à titre. C'est juste, ben c'est les organisations, quoi. C'est plus on veut que le sport soit pris au sérieux, plus il faut qu'on ait des règles et qu'on les applique et tout le temps. Et c'est pas comme genre je suis sur l'autoroute, il y avait pas de police, je me suis pas fait prendre, quoi. Tu sais, c'est comme, il faut qu'à un moment, le triathlon, il fasse le choix que dès qu'on a des preuves sur l'écran d'une infraction, on l'a fait. Puis ça va être, je vais pouvoir en parler plus tard, mais c'est la même chose avec les motos. Si tout d'un coup, on donne un avantage, ben il faut réfléchir à ça, puis il faut corriger. World Triathlon l'avait fait cette correction-là avant.
Allez, un autre point qui était un petit peu c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est vrai qu'on avait une densité qui était un peu moins forte, surtout chez les hommes, où il y avait quand même pas mal d'absents, et on l'a vu de toute façon, ça s'est ressenti sur la course avec une domination d'Alexis. De ton côté, Jeanne, il y avait quand même beaucoup de femmes présentes comme Bess Potter, Taylor Spivey, Sophie Caldwell dont tu as parlé tout à l'heure, ou encore toi-même. Jeanne Leher, 7e au classement au ranking WTCS.
Ouais, et là du coup il y aura les Françaises qui vont remplacer il y aura quelques Anglais absents, enfin British absents à Toulouse, et par contre il y aura les Français qui vont revenir en force.
Allez, l'autre point, moi que j'aime toujours pas, mais ça j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir beaucoup dessus, le système d'équipe. Moi j'aime pas du tout, c'est avant je trouvais ça beaucoup mieux, de l'individuel, des maillots distinctifs qui étaient facilement lisibles. Là les consignes, les maillots, je les trouve pas forcément faciles à voir de dos, tous gris, la bleue et rouge, c'était pas terrible. Les scénarios et le buzz entre les capitaines, ça me plaît moyen. Franchement, moi je trouvais ça beaucoup mieux avant et j'aimais bien la Super League de 2019 avec tous les rebondissements dans l'individuel. Et là au final, à part le short shoot, tu vois pas trop l'intérêt des équipes.
Ouais, puis là sur cette édition là, c'était vraiment problématique parce que les équipes étaient ultra déséquilibrées. Je pense que il y a même une équipe où aucun membre a terminé la course parce que le niveau était pas là.
Moi personnellement, je suis la seule fille de mon équipe à avoir fini. J'ai vu zéro chaussure quand je suis arrivée dans la dernière transition. J'étais « Ah, bon, je crois qu'il va falloir représenter un peu là parce que… »
Et justement, Jeanne, comment ça se passe un peu dans l'équipe? Est-ce que tu as été briefée sur la com par Super League, la com que tu dois avoir? Est-ce que vous avez vraiment des réunions d'équipe où ça parle stratégie d'équipe, ou en fait, c'est beaucoup de com et il se passe pas vraiment grand-chose réellement en termes de stratégie et de coaching?
Je pense que ça dépend vraiment des équipes. Moi, l'an dernier, bon, après, c'est peut-être pour ça qu'on a fini bon dernier. On n'avait pas vraiment de stratégie, même si, bon, après, des fois, il y en a qui sont durs à mettre. Et c'est pour ça, je pense, la force de la Grande-Bretagne, au-delà du fait qu'ils sont tous déjà très bons, c'est que, ils se connaissent bien, ils ont les mêmes dynamiques de course, souvent à l'avant, ils nagent tous bien. On voit les filles, les sharks, les cinq étaient limite les cinq à sortir en tête de l'eau. Donc, c'est des choses qui aident. Après, moi, mon équipe, pour le coup, on était assez diminué. Je pense qu'on avait vraiment la moins bonne équipe qu'on va avoir sur tout le circuit. Enfin, j'espère. Donc là, on va avoir Mathieu qui revient post-Covid. On a Léo et Mathieu
Hauser, donc.
Ouais.
Léo Bergère et Emma Lombardi.
C'est ça. Et du coup, je pense que ça va faire beaucoup de bien parce que potentiellement, c'est des 10 points individuels à gogo, des points nat. On a peut-être même Christiane qui devrait venir. Alors, je ne sais pas dans quel état, mais paraît-il qu'il va peut-être venir faire un petit coucou.
Donc, et vous jouez vraiment en équipe sur la course, du coup, pour marquer des points en équipe ou, enfin, là, t'as pas pu trop le faire parce que, a priori, les autres de ton équipe avaient pas forcément le même niveau que toi. Mais il y a vraiment une volonté de jouer en équipe.
Féminine, nous, ça va être compliqué de, enfin, par exemple, Emma, je vais en parler peut-être, genre, si elle voit que je suis à 5 secondes à la sortie de la natte et qu'elle est dans le groupe à vélo, pour l'équipe, elle a autant à faire en sorte que ça roule moins le temps que je rentre et ensuite, on peut essayer de se gérer entre nous. Je pense que nous deux, on sera peut-être les plus aptes à faire quelque chose ensemble. Après, Myriam, ça dépend si elle arrive à revenir, parce que là, elle fera pas les deux premières, parce que Myriam Casillas, une Espagnole, qui est dans l'équipe, mais qui a un problème au pied, elle va peut-être pas pouvoir faire les courses, à voir. Mais chez les garçons, je pense que Mathieu et Léo, imaginons qu'ils sortent devant dans l'eau, ils ont tout intérêt à essayer de rouler ensemble. Je sais qu'à l'époque, la première année des équipes, t'avais Seth Ryder, un Américain, qui était avec Alexis. Et Seth a beaucoup travaillé à vélo pour le ramener, pour que ensuite, Alex soit re dans la tête de la course. Et puis prendre des points qui, au final, les Eagles avaient gagné au général. Donc, Seth, je sais pas ce qu'il avait fait au classement au ranking, mais je pense qu'il était bien content que son équipe gagne. Donc, je pense que parfois,
il avait fait. 7.
6 et 8, exactement, 7 riders. Mais après, là, par contre, je trouve ça, alors, est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas, mais je trouve ça quand même un petit peu mignon, les petites équipes des Warriors avec tous les Américains, les équipes des Sharks avec tous les Grande-Bretagne, parce que, c'est quand même beau à voir. Après, c'est aussi parce qu'ils peuvent le faire, parce que c'est des nations, là j'ai fait un post à l'heure LinkedIn en disant les Sharks nous ont ratatiné, mais ils nous ont détruits, quoi. Et c'est aussi, ça montre je pense que tu fais une équipe française, je pense qu'il serait très bon, mais je pense qu'on serait en dessous, il serait en dessous de
là. En fait, tu es en train de nous parler du concept du relais mixte.
Non, mais après, je pense que c'est aussi parce que les Anglais, ils sont très malins sur certains points de vue. Et par exemple, ils savaient qu'un Max Tapley, c'est un très bon nageur. Fallait qu'il tente. Parce que moi, j'étais sur mon home trainer en train de faire ma récup. Et là, je vois Max passer à pied, je crois, ou en vélo, mais genre esselé. Il est grave. Et après, je me suis dit, en fait, il a fait ses points en natte. Là, il tente ou les points à vélo, ou le short chute, ou whatever. Et c'est des stratégies qui ont gagné, quoi. Après, évidemment, de base, ils ont des bons individus, mais je pense qu'ils sont quand même très malins.
Allez, donc du côté de la course femme, c'est donc toi, Jeanne, qui a remporté la course devant Sophie Caldwell, Taylor Spivey, Bess Potter, Kate Vaught, Olivia Mathias, la franco-britannique, d'ailleurs, je sais peut-être qu'elle est passée définitivement que britannique, d'ailleurs, Jessica Fulagar, Katisa Ferres et Nicole Van Der Kay, qui a fini 9e. Chez les hommes, c'est Alexis, Jonathan Brownlee, Taylor Reed, 1, 2, 3. Ensuite, Roberto Sanchez Montecon, 5, Max Tapley, 6, Daniel Dixon. Chez les femmes, belle course, Saint-Jeanne, tu nous as vraiment surpris. Moi, franchement,
moi aussi.
je donnais vraiment pas cher de ta peau sur le dernier tour, là, quand je te voyais faire les
lacets. Dès le début, j'étais toute seule derrière.
Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Et puis à pied, t'as rattrapé tout le monde et ça s'est bien goupillé. Donc, félicitations à toi. On a pu voir aussi Bess Potter qui a pas pu t'accrocher et qui gagne pas, donc enchaîne pas Paris vers la Super League, mais je suis sûr, enfin, je me fais pas trop d'inquiétude quand même pour elle.
Moi, je pense qu'elle est déjà focus sur, elle a pas enlevé son focus d'ailleurs de sa qualif olympique qui, elle, n'est pas acquise et il lui faut un autre podium à Pontevedra. Donc, je pense que la Super League, comme pour quasiment tout le monde, c'est plus du bonus et là, elle doit avoir les yeux rivés là-dessus. Elle sera pas à Toulouse, d'ailleurs.
Et maintenant, la Super League homme. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Alexis, au-dessus du lot, comme d'habitude, accélération à pied, il dépose les Taylor Reed et Jonathan Brownlee. Par contre, la petite surprise, c'est quand même le retour en forme de Johnny Brownlee. Alors, est-ce que ça ne couvre pas quelque chose, une belle perf peut-être en perspective sur 2024?
Moi, j'y crois. Je crois pas du tout, hein. Enfin, désolé, mais Taylor Reed, il a été inexistant sur les dernières compétitions. Et là, Johnny Brownlee au test event, bon, il est passé à travers, mais je pense que Iggy, il était tellement au-dessus qu'il a géré le truc, quoi.
52e, à Paris.
Il avait perdu son chien.
Non, Alex, normalement, c'est toi qui es fan des Brownlee, donc j'ai essayé de te tendre la perche.
Ah, mais je suis désolé de te l'apprendre, mais les Brownlee, c'est le passé. La nostalgie, c'est bien. Mais...
Les Brownlee, ça marchait en duo, surtout.
Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas que le triathlon qui a changé, il y a Alex aussi qui a changé.
Il s'est rendu à l'évidence.
Allez, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça manquait, c'était une course qui manquait un petit peu de densité. Les leaders du classement mondial, hormis Alexis, étaient absents. On espère que ce sera différent à Toulouse, et ça devrait être différent à Toulouse. Donc, bah, on verra ça avec attention. On passe à l'autre événement du week-end, ce qui a fait transpirer du front Julien. C'est les championnats du monde 70x3.
À une lettre près de siété, hein, transpirer du front.
Et pas que du front, il paraît. A priori, il a fait de l'huile, le petit Julien, quand il a vu Mathis sur la course. Mathis qui fait quatrième donc, de la course du côté des Français, avec une belle place également pour Anthony Coste.
11e Anthony Coste, effectivement.
Qui signe la 11e place. Donc ça, c'était les courses... du dimanche, on avait également sur la course homme Dylan Manier qui termine 23e, le Tahitien Benjamin Zorgnotti qui termine 35e.
Meilleur temps à pied Dylan Manier, 1h09 et des brouettes.
Ouais, qui avait été un petit peu oublié par Ironman, on a dû leur envoyer un petit message. A priori, l'info est passée, ils ont changé leur petite vignette, ils avaient mis le mauvais athlète avec le temps. Chez les femmes, c'est Marjolaine Pierret qui réalise la meilleure performance chez les Françaises avec une septième place. Et la quatrième place, c'était Emma Palande. Charlène Clavel 22e, Alexia Bailly 23, Justine Guérard 28e, Émilie Morier 30e, Nikita Paskevitch 32e et Julie Emono 36e. Donc ça, c'était pour les professionnels. Alors là aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation générale de la course, les plus et les moins? On commence par les plus.
Dans les plus, clairement, c'est la Finlande. C'est un nouveau marché pour Ironman. Je veux dire, les installations étaient assez incroyables. C'est celles qui sont d'ailleurs utilisées pour le biathlon durant l'hiver. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de monde. Malheureusement, le public local, fan du biathlon, il n'a pas transféré pour s'intéresser au triathlon. Mais ça reste une belle épreuve avec pas mal de choses à dire, finalement.
Ouais, moi, c'est une épreuve que j'ai plutôt appréciée. Et puis, voilà, c'est un championnat du monde qui n'avait pas forcément... un championnat du monde, voilà. Pour moi, c'était bien, mais pas top.
Ouais, c'est ça. C'est pas non plus un grand cru pour plein de raisons. Parce
on va en parler justement. Les moins d'ailleurs. Allez, on attaque les moins.
Vas-y, Alex, c'est ta partie préférée là. C'est toi ça. Hein. Les moins, c'est toi en général.
Ah ouais. Non, mais déjà, la Finlande, c'est super cool et ainsi de suite. Mais c'était un risque énorme, quoi, de faire une course là-bas fin août parce que t'as un risque avec la température et que finalement, oui, c'est passé pour beaucoup d'athlètes, mais il y en a certains qui ont su faire d'hypothermie. Et tout, c'était super attendu. Évidemment, le gros moins, et ça, j'en ai marre. Sérieux, même moi, je m'écoute pas les podcasts parce que j'en pourrais plus de m'écouter.
Moi, non plus, on t'écoute pas.
Non, mais c'est tout l'aspect arbitrage et ainsi de suite. Là, ce qui était choquant, c'est que Ironman, c'était peut-être la seule course ils en avaient vraiment besoin. C'était le fameux dispositif Race Ranger. Parce que la distance, déjà, de 12 mètres, on le sait qu'elle n'est pas assez. Que l'athlète qui suit, il a un avantage. Et puis, on est tout le temps dans une sorte de règle de gentleman où dès lors que ça monte, alors les distances sont plus vraiment à respecter. Et puis, il y a eu des franchissements de ligne, il y a eu plein de trucs. Il y a des infractions sur image. Mais vu qu'on est un sport comme le triathlon, même si on voit une infraction sur image, on ne va pas la sanctionner parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, ça passe. Et le monde, il trouve ça normal, alors que moi, je ne le trouve pas.
Ouais, moi j'ai été un peu. Je pense que la dernière course que j'ai regardée, c'était la course PTO US, où c'est les distances de 20 mètres. Et c'est vrai que ça m'a surpris à l'image. Je trouvais les cyclistes vachement. Enfin, les triathlètes vachement proches à vélo les uns des autres. Et voilà, la distance est à 12 mètres. Je sais pas si ça a été bien respecté, pas bien respecté. Mais comme on disait, ça reste à l'œil, donc c'est compliqué. Et je sais pas si Race Ranger c'est parfait. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un côté dissuasif quand il y a une petite lumière rouge qui vient se mettre sur son. Sur son poste de pilotage par rapport à la distance. Et ouais, j'étais un peu, déçu de voir ça sur un championnat du monde Ironman. Et ouais, j'aimerais bien que ça passe tout à 20 mètres. Je pense que ce serait un petit peu plus fair. Et effectivement, les super cyclistes, les upper bikers, ils n'ont pas été forcément récompensés là-dessus. En tout cas, pas autant que ce que j'aurais imaginé.
Est-ce que, on va parler de ta personne dans le sens de Mathis, qui est justement le nouveau super cycliste d'une certaine façon dans le circuit, comme on disait. Est-ce que tu as l'impression que le 12 mai, tu aurais pu changer sa stratégie? Dans le sens qu'il a peut-être fait le travail un peu pour les autres?
Ouais, clairement, je pense que c'est, évidemment, il y a moins de drafting à 20 mètres qu'à 12 mètres. Maintenant, il a été surtout étonné du niveau vélo qu'il avait avec lui. Il pensait pas qu'il pouvait être 6 dans ce groupe-là. Voilà, sur cette course, il fait 345 watts, je crois, de moyenne à peu près sur le de mémoire comme ça sur le vélo, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et sur le PTO US, il avait fait 360 watts, donc c'est assez proche quand même, même s'il y a une petite différence. Sauf que sur le PTO US, il a réussi à décrocher pas mal de personnes. Et là, bah, il y avait plus de monde dans le groupe. Et au final, avec Frédéric Funk qui fait deuxième de la course, ils sont tous les deux à avoir roulé devant. Et c'est pas forcément ça qui a payé le plus sur cette compétition-là.
Moi, ce qui m'a surtout dérangé sur cette compétition aussi, c'est comme d'hab, les différences de traitement, des pénalités, etc. On a vu Lucas Sanders, donc qui double sur une ligne à qui on dit c'est une ligne imaginaire. Bon, ça, je peux comprendre le positionnement de l'arbitre qui dit c'est pas parce qu'il y a une ligne, mais dans la réglementation, c'est marqué une ligne. Par contre, Blumenfeld, bah, il passe clairement par-dessus deux lignes pleines pour doubler. Certes, il y avait quelqu'un qui le gênait, mais c'est pas dans la réglementation. Il pouvait ralentir, il pouvait se mettre à droite, il pouvait, enfin. Voilà, on voit aussi, je suis fan de Marjolaine, mais Marjolaine, elle arrive trifonction grande ouverte, elle passe la ligne d'arrivée, bah il se passe rien. Alors qu'on se rappelle qu'on avait parlé de ça il y a quelques épisodes d'un triathlète qui s'était fait disqualifier en passant la ligne troisième parce qu'il avait sa trifonction ouverte. Enfin, voilà, dans la réglementation Ironman, là encore c'est clair. Donc ce qui est chiant en fait, c'est que bah rien n'est clair. La réglementation Ironman, par exemple, pour les lignes, elle parle d'une ligne jaune. Il y a, bah, oui, aux États-Unis, il y a des lignes jaunes, là, il y a des lignes blanches en Europe. Bah, comment on fait? Enfin, ça devient n'importe quoi. Et puis, bah, ça arrive à des situations où on critique de l'arbitrage, alors que, bah, eux, ils essayent d'appliquer des choses, mais si personne le comprend et ça fait des disparités. Donc, encore une fois, j'ai rien contre Marjo, mais c'est vrai que ça me fait bizarre de l'avoir arrivé trifonction grande ouverte sur le championnat du monde, alors que tout le monde, alors que tu peux te faire DSQ sur plein d'autres courses quoi, Ironman aussi, donc ça c'est quand même vachement dérangeant.
D'ailleurs ça soulève un autre point, dans les dernières heures il y a Lionel Sanders qui dit qu'il va boycotter les courses Ironman à cause de sa disqualification et de son explication et tout, parce qu'il a... Non mais j'adore, oui et non, mais non parce que en fait c'est qu'il n'y a pas une seule course en ce moment importante où il n'y a pas des cas comme ça. On parle d'Ironman, mais il y a eu aussi PTO avec la wetsuit de Frodeno, avec le bidon qui tombe. Les règles, elles sont claires. Si elles sont à l'écran, on doit sanctionner. Si moi, au golf, je joue et que je m'amuse à placer la balle, etc., si c'est à la télévision, je vais me faire disqualifier. Il y a plein de choses qui sont comme ça. Là. Il y a dans plein de sports, on voit avec le phénomène de la VAR, avec le football et tout. Il faut juste qu'on arrête puis qu'on devienne un vrai sport avec des vraies règles, parce qu'il y a tout le temps une affaire de traitement qui est différente, puis c'est fatigant quoi. Il y a un autre point que je voulais souligner aussi, que je pense qu'il a énervé pas mal de monde avec les commentateurs anglais. C'est la fameuse embrouille PTO Ironman qui sont comme d'habitude Ironman. Ils veulent pas dire le mot challenge, ils veulent pas dire le mot PTO durant les diffusions, mais en fait là ils ont changé un peu la politique, parce qu'Ironman ils ont parlé plein de fois de Singapour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout fiers de dire que bah il y a sûrement eu quelque chose dans l'eau et que du coup il y a eu plein de disqualifications. C'était un peu un moyen de tirer une balle perdue. On n'a pas le monopole dans le domaine, mais en tout cas Ironman est aussi fort maintenant dans ce domaine-là pour dire ben regardez, ils sont allés nager dans des eaux un peu dégueulasses. C'est quand même super gênant parce qu'au final Jason West a pas fait la course, Sam Long était pas en état, Christian Blumenfeld était pas en état. Moi j'ai l'impression que tu sais c'est vraiment un championnat du monde qui restera pas dans les annales, et moi ça me fait un peu chier parce que j'aime cette distance-là peut-être plus que même PTO pour l'histoire, pour plein de choses. Il y a un attachement face à la marque Ironman, puis ben c'est dommage, encore une autre occasion et tout là.
Bon, faut qu'on parle quand même du... Ça me fait mal au cœur, hein. J'aimerais bien qu'on en parle pas trop longtemps, mais faut qu'on parle du triplé allemand sur la course des hommes avec Rico Bogen, 22 ans, qui gagne la course devant Frédéric Funk et Jan Stratmann. Et voilà, je vous propose qu'on en reste là, je ne l'ai pas encore digéré.
C'est quand même une sacrée surprise Bogen aussi. Hein.
Alors Salem et Bogen, ils gagnent Crèche-Co devant devant Lang, et c'est quand même pas n'importe qui sans langue de bois.
La langue et la langue de bois.
Ouais, ok. Et donc sur la course féminine, bah là on a assisté à un récital de Taylor Nib hein, qui enchaîne et bah c'est simple hein, de toute façon elle colle 4 minutes à tout le monde sur le vélo. Elle fait pas forcément le meilleur temps à pied parce que c'est Kate Matthews qui court en 1:16 et Taylor Nib court en 18, sachant qu'il y avait il manquait 100 mètres, 100 ou 150 mètres, je me rappelle plus, mais au GPS, en tout cas, il manquait 100 à 150 mètres, donc on peut quand même se fier aux vitesses à pied. Et donc Kate Matthews qui est deuxième et la troisième, je te laisse la dire, Julien, parce que j'ai fourché la dernière fois et je vais pas y arriver sinon. Imogen Simmons, c'est ça, la sucette. Imogen Simmons, faut la dire à l'américaine.
Non, elle est, c'est vraiment une athlète que j'apprécie parce que, enfin pour l'avoir connue quand j'étais en charge de Selfish en France et nager chez.
Et allez les copines, encore une fois, ouais. C'est reparti.
Allez, c'est parti. Bah effectivement, ouais, c'est une athlète qui est très sympa, qui est super naturelle et qui a pas du tout la grosse tête et qui mériterait justement d'être beaucoup plus connue, beaucoup plus mise en avant sur les différentes courses. On en revient un petit peu à ce qu'on disait. Bah, dans différents podcasts, c'est ce qu'on dit un petit peu tout le temps, qu'il y a certaines grosses têtes d'affiche qui sont tout le temps sur le devant de la scène, mais il y en a plein d'autres qui mériteraient de l'être et des athlètes qui sont tout aussi méritants, entre guillemets, s'il y avait besoin d'être méritant.
Ouais, puis peut-être sur cette édition-là, c'est clair que Taylor Nib elle vient un peu monopoliser la course tellement qu'elle est au-dessus, en fait. Moi, ça me rappelle un peu les années Daniela Ryf, qui était extrêmement forte à vélo et qu'il y avait un énorme écart avec le reste. Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Daniel Arif était sur la course et en fait, on ne l'a jamais vu.
Après, il manquait Anne Hogue quand même. Hein.
Ouais, lui, il manquait, c'est ça, il manquait d'autres athlètes. Pour les spécialistes, Knib a fait le temps vélo en 2h07 et Funk, qui fait le meilleur temps à vélo, il le fait en 1:55, ce qui fait à peu près 12 minutes d'écart. Ce qui est pas déconnant
oui, mais bon, tu vas pas nous faire ce jeu là Alex, à comparer une course du samedi et une course du dimanche. C'est un petit peu comme ceux qui nous comparent les temps, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une championne du monde au scratch, groupe d'âge, Anne-Sophie Pierre. Voilà, on peut pas comparer une course pro, une course groupe d'âge,
mais attends,
une course du samedi, une course
oui,
du dimanche.
Oui, mais Taylor Knib, elle a pas eu d'aide, fait que le 12 minutes, il vient quand même dire quelque chose selon moi, ce qui veut dire que tu sais, est-ce que les autres femmes sont pas assez fortes à vélo en ce moment? Il y a une réflexion à avoir.
Bah, c'est ah ça. Bah, clairement, si elles ont pris 5 minutes d'écart, c'est sûr qu'elles sont pas
surtout
assez fortes.
Surtout qu'à la base, Taylor Knib doit être une spécialiste de WTCS et donc il y a un certain format et certains styles de vélo.
Je suis pas forcément d'accord avec toi, Julien. C'est pas forcément qu'elles sont moins fortes à vélo. C'est peut-être qu'elles ont essayé aussi de plus s'économiser parce qu'elles sont moins capables d'enchaîner course à pied et vélo derrière aussi.
Oui, tu peux prendre le problème dans l'autre sens, mais ça revient au même au final. C'est qu'il y a quand même une différence de niveau entre ces filles-là. Il y a 5 minutes d'écart à l'arrivée,
mais ça veut pas,
je ne veux pas dire, mais 3:53:01 pour Taylor Nib et Kate Matthews 3:57:04. Tu places la différence où tu veux en termes de niveau, mais 5 minutes d'écart sur une course qui dure moins de 4 heures, c'est quand même énorme à ce niveau-là.
Non, mais je revenais sur tes propos sur le vélo, mon cher, que je trouvais quand même assez dépassé quand même. Hein.
Il faut le dire.
C'est des propos d'Alex, ça, qui essaye d'en placer une depuis tout à l'heure.
Ah ouais, il faut le dire, non, vraiment.
Non, mais il y a probablement une dimension aussi psychologique, dans le sens que, tu sais, on va pas se le cacher, à peu près. Je pense pas qu'il y a énormément de femmes qui pensent pouvoir battre Taylor Knib à la régulière en ce moment. Puis c'est ça, écrire sa légende, c'est gagner des courses importantes, puis si t'es capable de partir fort durant la course, ben les personnes, elles essayent même pas de réduire les écarts. C'est un peu comme ça que la course s'est jouée et tout. Moi, mon questionnement, ça revient à tout ce qu'on a dit au début du podcast. Si tu enchaînes l'échec à 100 000, les titres en 70.3, etc., quelle est ta motivation pour rester sur le circuit WTCS? Oui, elle a sa sélection pour les Jeux Olympiques, etc., mais c'est une autre marche pour réussir à gagner une médaille, en tout cas pour le moment. Fait que c'est à suivre et je trouve assez intéressant tout ça.
Une dernière chose pour finir sur ces championnats du monde, T'as une chose à dire?
Oui, je voulais simplement signaler que au moment où on enregistre le podcast, le classement, le World Ranking PTO a été mis à jour et que Marjolaine Pierret, avec sa place de 7e sur la course, elle est 15e au classement PTO, donc c'est la première française sur ce classement-là. Et si on regarde chez les hommes, le premier homme, c'est Mathis Margerier, qui est donc à la 8e place et qui a gagné 4 places. 10e, ça menait de l'eau. Voilà, c'est sympa ça quand même de voir des Français aussi bien placés sur le classement, sur ce World Ranking.
Pour terminer sur cette course femme, il faut noter la performance du binôme Céline Bousserez et Myriam Amara qui deviennent les premières triathlètes, enfin Myriam Amara devient la première triathlète non-voyante à boucler un championnat du monde 70.3 Ironman. Donc voilà, elle marque un petit peu l'histoire. Et Céline Bousserez, c'était à un an des Jeux Paralympiques. Il y a un an, elle a gagné une médaille de bronze sur les Jeux de Tokyo, donc avec son binôme Anouk Kurzilla. Et voilà.
Tu veux dire qu'Anouk Kurzilla a gagné une médaille de bronze sur les Jeux paralympiques
avec sa guide, effectivement. Ouais. Et peut-être qu'elle gagnera d'ailleurs une nouvelle médaille avec sa guide.
Bon, on verra.
On espère. En tout cas, est-ce que pour terminer sur ce chapitre, on refait les courses. En conclusion, est-ce que pour vous, c'était une grande édition du 70.3? Est-ce qu'il y aura encore des spécialistes 70.3 dans les années qui viennent?
J'ai très peur pour le 70.3, même si c'est ma distance préférée. Je pense que PTO a déjà démontré qu'ils avaient volé les vedettes et que c'est là que les stars allaient se diriger.
Moi, je pense aussi que c'était peut-être la dernière année où le championnat du monde 70.3 a autant d'importance pour les athlètes, même si il y en a certains qui sont passés au travers parce qu'ils ont enchaîné avec le PTO Asie notamment. Mais je pense que c'est la dernière année que l'Ironman 70.3 est une course importante dans le calendrier. Et pour moi, PTO va tout avaler.
Ouais, pour moi, je pense qu'Ironman, il va falloir qu'il se pose vraiment des questions sur la suite parce que effectivement, il manquait quand même beaucoup de monde sur ce championnat du monde 70.3. En attendant, eh bien, justement, on va recevoir quelqu'un de chez Ironman, vu qu'il représente Ironman France, il représente également la FFTri, puis il représente aussi le triathlon français en général de par son palmarès. On accueille de suite notre invité de la semaine, Monsieur Yves Cordier. Alors là, on a un invité de la semaine, mon cher Julien. Je sais que tu vas encore bondir de ta chaise et que chez Cercle Faire Performance, ça va peut-être faire bondir. Exceptionnel, avec Monsieur Yves Cordier. Alors, l'un des tout meilleurs Français, tout meilleurs triathlètes de tous les temps, hein, on peut le dire, sur longue distance. Il est également donc vice-président de la FFTri en charge du haut niveau, directeur Ironman France, champion de France, champion d'Europe, champion du monde par équipe de triathlon, 5 victoires à Embrun, entraîneur en ce moment de Marjolaine Pierret, mais il a été également l'entraîneur de Jeanne Collonge et d'autres. J'ai pas fait tout ton CV, Yves, sinon je pense que ça aurait été un petit peu long. Et déjà qu'Alex est très très long, alors là sinon on n'en sortait pas quoi. Donc comment vas-tu aujourd'hui, Yves ?
Non, ça va. Bah écoute, ça me fait une petite coupure avec le travail. Les journées sont extrêmement longues. Je suis plus qu'à 10 jours là des championnats du monde, donc ça fait du bien de voir autre chose là. Donc je m'accorde ce petit temps. Je reprendrai après le travail, mais très heureux de partager avec vous ma passion qui est le triathlon.
Alors ce retour au premier plan de Nice avec ce championnat du monde dans 10 jours, là tu viens de nous le dire, est-ce que comment ça se prépare là, tout se prépare bien, tout est bien huilé on va dire?
Ouais, il faut que ça soit huilé pour le jour J, hein. Voilà, donc je pense que c'est, si on fait la comparaison à l'athlète, hein, c'est pas 10 jours avant qu'il faut être prêt. Effectivement c'est un gros morceau. J'avais pu connaître déjà une telle préparation pour les championnats du monde 70.3 en 2019. Là, c'est encore un ton au-dessus et puis surtout avec un temps un peu plus réduit pour le préparer. Mais je suis plutôt quelqu'un qui aime les challenges et j'ai essayé de porter, pas tout seul, hein, bien sûr, avec mes équipes, cet événement et que... J'espère en plus que nos Français pourront, apporter la cerise sur le gâteau.
Donc challenge, c'est pas un mot tabou chez toi. Hein. On l'a compris, ça va. Ça va bien quand même.
Oui. Oui, je me doutais quand j'ai dit mon challenge.
Ton plus beau souvenir. Alors avant de basculer, ouais, sur les championnats du monde, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ça. Pour ceux qui te connaissent pas forcément et puis pour te connaître un peu plus, comment tu t'es lancé toi dans le triathlon et qu'est-ce qui t'a animé au cours de toutes ces années?
J'étais en bout de piste au niveau natation. J'avais décidé, c'était ma dernière année en sport-études. J'étais à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, j'étais passionné de déjà d'efforts très longs puisque je nageais déjà beaucoup. Je nageais 15 km par jour et j'étais demi-fond, hein, 1500. Et voilà, j'étais vraiment voilà, après je voulais faire le record du monde des 24 heures et puis bah c'est présenté à moi donc le triathlon de Nice en 82 que j'ai vu à la télé et en 83 je faisais un peu de vélo là pendant les vacances, j'ai décidé de m'inscrire avec mon frère et puis c'est parti comme ça quoi, hein, voilà, donc coup de poker et puis bon voilà, c'était parti en 84, en 83 et en 84, j'avais décidé de me lancer un peu plus de challenge sur l'organisation de mes entraînements. Et puis voilà, après c'est parti, fil en aiguille, des partenaires, le triathlon qui s'est organisé autour de Nice avec des épreuves en France, etc., etc. Et puis je crois que j'ai arrêté en 2001. Donc voilà, ça a été déjà une belle étape dans ma vie avant de passer à autre chose.
Comment ça s'est passé justement la transition entre Yves Cordier l'athlète et puis Yves Cordier l'organisateur et même l'entraîneur aussi, parce que je pense que tu as entraîné avant d'organiser des compétitions, il me semble.
Alors déjà avant ma fin de carrière, j'avais commencé à faire quelques organisations, notamment la Prom Classique, c'est moi qui l'ai créée. Et voilà, je m'étais un peu mis de passion à organiser des événements. C'était quelque chose dans ma méthode de travail que j'aimais bien. Et il s'est trouvé que j'ai commencé à déclencher des opportunités, notamment en 2004, quand j'ai su qu'il y avait une possibilité de bouger à Ironman de Gérardmer vers Nice. Et en l'occurrence, de challenger un peu la fédération qui organisait depuis quelques années où le triathlon de Nice s'essoufflait. Et puis en tous les cas en termes d'entraîneur, comme je vous ai dit, ma passion c'est le triathlon, j'avais envie de découvrir autre chose côté entraîneur. Donc j'ai entraîné avant ma l'arrêt de ma carrière, j'entraînais à la SPTT, puis ensuite je suis passé donc à l'ONN. Et après, à l'ONN, j'ai un petit peu plus réduit l'entraînement pour les athlètes de meilleur niveau. Et j'ai eu quelques jeunes filles, plus de jeunes filles que de garçons. Je crois que le seul garçon, ça va être Romain Guillaume. Et voilà, donc ça reste une passion pour moi avant tout, quoi.
Parlant de Nice, pour les plus jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui connaissent juste Ironman Nice, mais est-ce que tu peux rappeler un peu qu'est-ce qu'était le triathlon de Nice? Et surtout que toi, tu as quand même une longue histoire avec cette course-là, parce que tu sais, pendant plusieurs années, je pense que tu étais vraiment le Français, tous les espoirs, celui qui devait gagner la course, ainsi de suite.
Oui, alors le triathlon de Nice devait se dérouler normalement à Monaco. C'était en 82, l'année où la princesse Grace est décédée. Donc IMG qui était en main d'organiser cela a proposé à la ville de Nice donc de trouver une solution. Il s'est installé à Nice et après il n'a plus bougé. Les distances étaient tout autres, hein. C'était 3 km, 120 en vélo et 32 à pied. Donc un format différent qui permettait à l'époque de faire venir les meilleurs mondiaux, les meilleurs américains. Au début c'était Mark Allen, Les Scott, Scott Tinley, Mike Peake, Ken Gla, enfin c'était cette belle époque. Ils arrivaient à Nice et c'est vrai que tout le monde avait les yeux qui brillaient à travers ces athlètes, quoi. Donc pendant jusqu'en 80 jusqu'en 93. Je crois que ça a été IMG qui a organisé, et puis après la fédération qui a pris la main de 94, je crois, jusqu'à 2004 sur ce format de distance. Et 2005, voilà, Ironman est arrivé.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Nice est le berceau alors du triathlon?
Bah oui, je pense. Hein, 82, 2023, je pense que c'est on va dire une cité qui a pu faire briller, on va dire, ces belles épreuves qui étaient le triathlon sous l'ère d'IMG, sous l'ère de la fédération, mais aussi Coupe du Monde, et aussi des grands prix. Championnat du monde 70.3, Ironman. Maintenant, voilà, je pense que oui, c'est vraiment une empreinte dans l'histoire de notre sport. Quoi.
Et est-ce que cette dimension historique, justement, tu penses qu'elle a eu un poids pour l'attribution des championnats du monde à Nice? Alors,
sincèrement, c'est ce qui a été sans discussion, on va dire, le challenge de dire voilà, s'il faut trouver une solution de partager ou d'expatrier sous une forme ou sous une autre, c'était Nice. Donc moi j'ai trouvé l'histoire assez quand on a vécu, on va dire, ce challenge, encore mon challenge, hein, qui était d'avoir Mark Allen qui gagnait à Nice, Dave Scott qui gagnait à Hawaï. On savait pas à l'époque c'était quelle épreuve qui était la plus représentative. Maintenant ceux qui vivent maintenant on s'imagine bien que c'était Ironman, mais IMG faisait du bon travail en faisant une belle épreuve à Nice et en apportant aussi les meilleurs mondiaux. Greg Wesch, il y a beaucoup d'athlètes qui sont venus. Pour avoir un tel changement, voilà, c'était important. En tous les cas, c'est ce qui m'a été proposé et que j'ai pu en quelques semaines challenger pour trouver, on va dire, toutes les solutions à organiser cela. Quoi.
Quel regard tu portes sur le triathlon d'aujourd'hui, toi qui as eu la chance de voir plusieurs époques, sur par exemple les courses à l'armement, sur aussi la science du sport, l'entraînement, parce que il me semble que on s'entraînait beaucoup à la sensation et maintenant on a tous ces capteurs, etc. Est-ce que toi tu utilises toujours d'ailleurs la sensation dans tes entraînements? Enfin voilà, plein de petites questions sur le triathlon moderne et enfin moderne. Ce serait faire en force de dire ça, le triathlon d'aujourd'hui.
Alors non, on peut pas ignorer effectivement ce côté de l'évolution, parce que moi je suis parti du siècle dernier, on va dire, hein, de l'âge de pierre, et effectivement, c'est des choses qui sont hyper importantes. Néanmoins, je pense que pour beaucoup d'entraîneurs, en tous les cas, pour ceux de haut niveau, mais pour ceux aussi qui sont pas forcément à haut niveau, il est important d'avoir cette finesse entre l'entraîneur et l'entraîné pour choisir effectivement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Il y a bien sûr les outils scientifiques, mais en tous les cas, moi, que ce soit avec Jeanne ou maintenant avec Marjolaine, qui est très jeune, on possède un entraînement totalement différent de ce que j'ai pu donner aux autres athlètes, mais qui me permet effectivement d'évoluer avec elle. Et voilà, j'essaye effectivement d'être très à son écoute pour pouvoir pallier à, on va dire, son jeune âge, et puis à peine 3 ans de triathlon, donc c'est assez rapide, donc j'essaye de pas non plus aller à l'armement comme tu dis, si on regarde ce que font les autres, ça marcherait peut-être pas pour elle, quoi.
On va attaquer un petit peu les questions. Tu nous connais, on aime bien taquiner, hein. On est coquins comme on a pu nous dire récemment. Les tarifs Ironman. Est-ce que pour toi, tu trouves pas que c'est un petit peu trop élevé, que ça limite pas trop l'accès au sport et que ça va pas un petit peu dans un sens qui dessert un peu plus le triathlon? Quand je prends par exemple le tarif de des Sables d'Olonne au-delà de 400 € à partir de certaines tranches. Hein, je sais que vous offrez déjà la possibilité à moins, donc je crois que ça commence à 320, il me semble, ou quelque chose comme ça. Est-ce que pour toi, c'est pas quelque chose de limitatif, ou est-ce que c'est justement un choix d'Ironman de dire, bah, en fait, nous, on a la clientèle, les sables étaient pleins, donc pourquoi ne pas aller vers ça, ou tout simplement parce que c'est des coûts qui sont justifiés par l'organisation?
Alors, depuis 2005, hein, où je travaille depuis Ironman, il faut se mettre. Je vais argumenter. Hein, aujourd'hui, oui, les coûts sont pour nous en termes d'organisation sont énormes. On peut pas imaginer, mais voilà, je vais pas donner forcément de. Mais par exemple, c'est vrai entre l'an dernier.
Si on veut des chiffres, nous ici, on veut des chiffres.
Ouais, mais bon, toi, entre l'an dernier et cette année. On a des prestations qui étaient de, par exemple, Croix-Rouge, sur un prestataire de la Croix-Rouge qui intervient avec d'autres. Voilà, ça a pris presque 50% sur quasiment l'ensemble de nos épreuves. Et aujourd'hui, en fait, on va dire que l'événementiel est lié à ça, quoi. C'est-à-dire que le poseur de barrières aujourd'hui, s'il veut mettre ses barrières à 12 €, il les mettra à 12 ou à 13. Ou moi, j'ai des sur Nice. À l'époque, je travaillais avec un seul prestataire. Et là, maintenant, comme il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent travailler dans ces métiers qui sont difficiles, bah, je suis obligé de faire appel à deux prestats, donc un qui vient de plus loin, etc., etc. Nous, on paye aussi la surface, hein, surface commerciale. On paye aussi des tarifs très importants sur tout ce qui est sécurité à Nice. Voilà, un tarif d'agent de sécurité, ne serait-ce que pour Nice en septembre, c'est plus de 120 000 €. Voilà, donc c'est que ça. Maintenant, j'aime pas forcément parler de ça. Le but, c'est que l'athlète, une fois qu'il a mis les pieds dans la course, ça soit transparent et qu'il puisse nous dire à l'arrivée. J'ai vécu une belle expérience, j'ai eu des émotions, j'ai transmis des émotions à ma famille. Voilà, est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on n'a pas été bon? Voilà, et c'est vrai que nous, à Ironman, on travaille sur ces fameux surveys où les athlètes, on va dire, inscrivent, on va dire, toutes leurs réponses de satisfaction, de natation, enfin, il y a un long questionnaire. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de nous adapter l'année suivante à ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et pour moi, c'est vachement important parce que c'est, on va dire, c'est le miroir de ce qu'on a pu produire, la satisfaction des athlètes.
Et ça donne voilà, quoi donc ces questionnaires là pour Ironman France, tout du moins hein, pour vous
Bah ça fait quelques années. Sables d'Olonne a eu 3 années meilleures. D'ailleurs, a eu le résultat le meilleur jamais enregistré avec 99% la première année. Là, Nice, au mois de juin, j'ai eu une excellente aussi satisfaction, donc ça fait plaisir aussi avec 95%. Voilà, le but c'est le reflet de ce que les athlètes nous attendent quoi. Maintenant j'essaie d'être à l'arrivée, j'essaie d'être aussi à la sortie du parc à vélo, de voir un petit peu ce qui se passe dans les yeux des athlètes et dire oui, ok, c'est un tarif, mais on est content. Voilà, maintenant, je vais pas cacher que c'est pas quelque chose qui est anodin pour une famille. Ça représente un gros budget, mais bon, voilà, il se présente comme si. Des fois, bon, on peut craquer dans une famille et se dire, voilà, on va se payer des super vacances et voilà, on va mettre le paquet. Voilà, le but, c'est ça. Maintenant, néanmoins, notre offre permet aussi à d'autres de s'exprimer. Voilà, je pense que je crains pas la concurrence parce que on va dire que on n'est pas. Le but, c'est de développer le triathlon. Voilà, et on s'est aperçu, par exemple, au Sable d'Olonne, quand on l'a créé, les épreuves qui en Vendée avait quand même déjà un certain aura qui était bonne, bah on continue de se développer, les clubs se sont développés incroyablement. Donc voilà, je pense qu'il faut de la Super League, il faut du PTO, il faut de l'Ironman, il faut du Challenge, dès lors que on puisse effectivement apporter le plus d'adhérents
Tu étais champion de France, c'est ça, de triathlon, il me semble.
Oui, quelquefois, ouais.
Alors j'ai vu, j'ai trouvé, parce que en fait, je te dis ça parce que j'ai trouvé une affiche de Marseille.
Ah oui.
Des championnats de France de Marseille qui était organisé par le Sporting Club de Marseille. Ouais. Alors ça n'a rien à voir, c'est complètement démago. Hein, ceux qui nous écoutent, il y a aucun lien avec ma question précédente. Enfin, faites pas le lien tout du moins. Mais sais-tu combien était, est-ce que tu te souviens de l'inscription, du prix de l'inscription au championnat de France Open, qui était limité à 400 participants, qui s'est déroulé le 29 mai 88 à Marseille.
Enfin, sur un cours, ça devait être 75 francs ou 60 francs.
Ouais, ça avait déjà pris, il y avait déjà eu une crise qui était par là. Les barrières avaient déjà augmenté, c'était 100 francs.
Ah ouais, tu vois, ouais.
mais t'étais pas loin, ouais. T'étais pas loin. On vous mettra ça sur le site du Trichot, on vous mettra justement cette petite pépite qu'on a trouvée sur des sites.
Alors ouais, c'est une image des barrières, mais
en fait. Non, mais je plaisantais, c'était pour te taquiner.
Oui, je suis d'accord, je mets pas le doigt sur la Croix-Rouge, parce que les gens qui travaillent en tous les cas pour nous sur la Croix-Rouge étaient certainement, on va dire, par rapport au travail effectué, c'était pas justifié. Et moi, je les remercie sans arrêt d'avoir commencé le matin à 4h, terminé à minuit, de prendre soin des athlètes, etc. Et dans tous les corps de métier qui sont autour de nos événements, ce sont des gens qui travaillent dur, qui sont passionnés. Mais voilà, c'est la vie qui est ainsi, et que voilà, il y a un système qui fait que bon, tout augmente. Hein. Aujourd'hui, on va au supermarché, on achète à manger. Bah oui, faut des fois choisir.
Est-ce que tu as l'impression que le triathlète, en fait, il a changé, dans le sens que Ironman, vos événements sont tellement de qualité, etc., qu'il y a une attente qui est face aux exigences, et qu'il y a tout le temps, faut toujours faire un peu mieux. Et du coup, le triathlète, c'est peut-être un client très difficile aussi, parce qu'il n'est pas capable de satisfaire. Il faut toujours plus. Est-ce que tu partages ce sentiment-là ou
Si je suis le consommateur, je décide d'aller faire un Ironman ou choisir des vacances très chères dans un hôtel, dans un bel endroit, on va être plus attentif à ça. Et c'est un peu notre challenge à devoir rendre, on va dire, par rapport à tout ce que l'on demande, les choses elles doivent être faites parfaitement. Moi, en tous les cas, j'ai ce critère d'exigence depuis quelques années. En tous les cas, nos épreuves en France brillent quasiment le top 10 des surveys mondiaux, quoi. Voilà, donc j'espère que, on va dire, j'ai dit souvent que la France était on va dire à la pointe de plein de choses, hein. Avignon en 89, tu parlais des championnats de France à Marseille, tu as plein de choses, l'Iron Tour. Enfin, je pense qu'on a la France, on a fait des choses énormes pour le triathlon, et il faut que ça continue. Avec des jeux, j'espère qu'ils vont être extraordinaires. J'étais à Paris pour le Test Event. C'est vrai que on n'aura pas, je pense, beaucoup de jeux avec un tel site, et je pense que le site est important pour notre sport. Je pense que ces images, on va les voir dans le monde entier.
Donc toi, t'es pas comme Alex, tu penses pas que le parcours de Paris, il faut le changer, et le site de Paris, il faut le changer.
Attends, la question est différente. Et est-ce qu'il y avait mieux à faire à Paris?
Non, pas du tout.
Donc, commence pas à l'influencer, non. Alex. Commence pas à essayer de l'influencer.
Hey, il est né à Paris quand même. Hein. Il est né à Paris, Yves. Hein, donc il a intérêt à dire qu'il faut garder Paris. Hein.
Non, je pense, pour moi, ça fait partie du patrimoine, et aux athlètes de s'adapter, de faire la course. Aujourd'hui, la course de Paris, elle était sous un enjeu, comme disait Jeanne tout à l'heure, de devoir se qualifier. Des Jeux, ça sera d'aller chercher les médailles. Donc ça sera à mon avis différent. Ça sera aux athlètes. Il y aura des athlètes qui vont essayer de jouer tactique, il y a des athlètes qui vont essayer de jouer leur va-tout. Voilà. Après, tu sais, tu peux mettre un parcours plus difficile ou pas. Tu écris pas l'histoire avant. Voilà. Donc ce sont les athlètes qui feront la course. Et
j'ai rien dit, promis. Promis, je lui ai rien dit à Yves. Il a sorti la même phrase que moi, Alex.
Je viens juste à dire que j'ai gagné le sondage.
C'est les athlètes qui font la course.
Oh merde. Yves.
Mais est-ce qu'il avait voté, Yves? Attends, peut-être qu'on est à 55 ans. Ah,
bon, conspiration, ça y est. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence, point de vue organisation, entre Ironman Nice et Ironman champion du monde, parce que championnat du monde, parce que tu vas avoir une clientèle ultra internationale qui veulent avoir la course de la vie, qu'il y a plein d'exigences logistiques qui sont différentes.
Ben, j'ai envie de dire non, parce que c'est dans 10 jours, 11 jours, 12 jours, je sais plus, mais il faut venir voir, il faut le découvrir. Voilà, je pense que j'aurais pas assez de... Je pense que le but, c'est que les gens découvrent, et je serais impatient de voir ce qui va en retourner, quoi. Voilà. Après, tu sais, des fois, tu construis quelque chose, tu penses que c'est la plus belle chose au monde, et puis finalement, c'est peut-être pas ça. Donc, moi, je pense que c'est, je préfère attendre que la course ait lieu et que, voilà, peut-être que, tu sais, des fois, c'est les circonstances de course qui vont créer que la course va être superbe ou pas. Voilà, donc, mais bon, les exigences, bien sûr, elles sont différentes de celles du mois de juin. C'est, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, on met un paquet cadeau plus, et on est. Enfin, moi, je qui connais bien maintenant, ça va faire 20 ans que je travaille pour Ironman. Bien que on pensait jusqu'en haut, jusqu'à Andoumessic, le souci, c'est d'être certain que les athlètes vivent nos épreuves avec passion. Et c'est ça notre critère. On n'en serait pas là, je pense, que si on nous avait pas enseigné cela, quoi. Voilà. Et en tous les cas, moi, je me retrouve dans ça, quoi. Donc, j'espère que le dimanche 10, on aura tout ça.
Alors justement, dans cette dynamique d'organisation, Yves, penses-tu que ce soit une bonne idée de faire deux courses séparées, hommes-femmes ? Quels en seraient les avantages éventuellement ?
Alors, j'ai pas réfléchi, c'est pas moi qui réfléchis, mais je me souviens très bien de la période où on a décidé pour 70.3 de faire hommes et femmes. Ça a été un sujet de réflexion, parce qu'il y a 5 ou 6 ans déjà, et on disait, ah ouais, ça va être les femmes, bon, il y a pas de densité, blablabla, machin, etc. Et maintenant, effectivement, le 70.3 femmes a toute sa légitimité d'exister, que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les groupes d'âge. Donc le but, c'était d'arriver à franchir le palier, parce que nous, on regarde beaucoup les chiffres, et on sait que par rapport à certains continents, l'Europe, et en tout cas surtout la France, on doit encore vraiment se développer sur le développement du sport féminin, et en particulier donc le triathlon. Et je pense que pour tout le monde, pourquoi on dirait que l'Ironman pour les hommes, c'est le rêve, et pas pour les femmes, de laisser les femmes à Hawaï avec seulement 400, 600 ou 700 places. Voilà. Après, l'idée, je me disais tout à l'heure, l'idée de vivre à Hawaï la course femme pour la première fois, parce que j'ai été souvent spectateur. Néanmoins, même si c'était des grandes athlètes qui gagnaient, elles arrivaient néanmoins après le grand show des premiers, quoi. Et c'est vraiment difficile pour les femmes d'être mis sur un niveau. On a vu ce week-end la course féminine extraordinaire avec une athlète qui, à mon avis, va faire parler d'elle pendant de longues années. Et là, je pense que la course, elle est vraiment dédiée aux femmes. Bon, ça sera Hawaï. Alors, Hawaï ne disparaît pas, hein. Hawaï a toujours lieu, et ça reste toujours, pour moi, bien sûr, le mythe. Mais bon, comme dans beaucoup de sports, hein, les championnats du monde sont pas forcément tous les ans. Là, le championnat du monde, homme ou femme, aura lieu tous les 2 ans à Hawaï, et tous les 2 ans aussi à Nice. Je pense que c'est une belle alternance. Je commence à avoir pas mal de pros qui commencent à dire, c'est intéressant aussi d'avoir tous les ans une solution de changer un peu de préparation, de voir autre chose, d'avoir peut-être d'autres acteurs tout en haut de la liste. Hein, voilà, c'est c'est ça aussi qui va être voilà, je pense qu'on est un sport innovateur, donc pourquoi pas ne pas l'avoir tenté. En tous les cas, je pense que c'est vrai que la course d'Hawaï féminine, bien sûr qu'il y en a qui disent c'est peut-être ça sera peut-être pas encore top en termes de densité, mais je suis sûr dans 4 ans, enfin dans 3 ans, quand il y sera de nouveau aux femmes à Hawaï, ça a encore franchi un palier, et puis ça va inciter, et puis le niveau va se densifier, et puis toutes les femmes, il y aura forcément plus de slots sur chacune des courses, et ça va améliorer aussi la visibilité. Il y en a qui disent ouais, tout le monde, tous les partenaires seront pas à Hawaï, bah peut-être pas au début, mais in fine, pourquoi pas.
Et tu c'était pas possible de faire, alors moi je te rejoins sur le fait de séparer les courses, je trouve que c'est vraiment un bon point pour Ironman. J'étais un petit peu sceptique au début sur la séparation, pour être honnête, sur deux jours de course. Par contre sur le lieu, ouais, je suis vraiment très très sceptique. Tu penses pas, toi, que c'est plutôt un retour en arrière, plutôt justement de, bah, Il y a une telle ambiance, là tu citais la Finlande, mais justement de voir en Finlande les masculins venir encourager les féminines de la veille et vice-versa le lendemain, je trouvais que ça faisait vraiment une super émulsion et ça avait très très bien pris. Et là d'avoir effectivement les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, tu penses pas que justement ça va plutôt avoir tendance à revenir à faire un retour en arrière? Et la suite de ma question, c'est juste, c'était pas possible de faire venir les femmes aussi à Nice, quitte à perdre Hawaï, en fait?
Alors, je vais répondre de suite. Hein, l'an dernier, quand il y a eu la séparation à Hawaï, la première des choses que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de gens, les critiques sont toujours moindres que ce qu'on peut penser, mais elles font beaucoup de mal. Mais en tous les cas, les gens disaient c'est le bordel à Hawaï, maintenant il y a trop de monde, c'est voilà. Donc je pense qu'effectivement, en termes de densité, moi je le vois, hein, sincèrement, je le vois à Nice maintenant depuis 3 ans, quand j'organise les deux courses, hein, j'ai 4500 athlètes. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de monde, mais c'est chaud quand même pour organiser, c'est pas simple. Donc je pense que, tu sais, quand tu vas à Hawaï, moi les quelques personnes que j'entends, elles sont les professionnels, hein, en prenant Jeanne, hein, elle y va en famille, hein. Donc effectivement, c'est aussi ça permettra d'avoir quelque chose comme on aimait peut-être à Hawaï. Hein. T'as 2200-2300 femmes, elles iront aussi avec leur famille, il y aura aussi du monde. Je suis pas inquiet là-dessus. Hein. Je suis pas inquiet là-dessus. Donc voilà, je transforme un peu la question, mais peut-être trop de monde, c'est compliqué.
Et sur Nice, c'était pas possible d'avoir parce que moi le championnat du monde tournant, honnêtement, je trouve que pourquoi pas. Effectivement, Hawaï, c'est un mythe, mais pourquoi pas, tu vois, que ça tourne. Je trouve que ça se fait dans beaucoup de sports, ça peut être très très bien. Mais c'était pas possible d'avoir les femmes, par exemple, le samedi ou le dimanche, et les hommes à Nice en même temps. Vous aviez la capacité, non d'organiser, ou c'était pas possible?
C'est vraiment très compliqué. Et puis, je pense que autant tu fais ça sur un 70.3, mais c'est vraiment compliqué pour une cité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, même à l'étranger, où c'est compliqué de faire 2 jours de course de jours pleins, hein, parce que c'est 17 heures de course, donc t'imagines bien. Donc là, d'ailleurs, il y avait un jour d'écart, hein, parce que entre les deux. Et non, Nice n'aurait pas pu challenger cela. Et je continue à dire que c'est vraiment fait partie de notre histoire. Il faut conserver Hawaï, quoi. Il faut conserver Hawaï. Je souhaite à ce que tous les athlètes qui ont la capacité de vivre une fois à Hawaï. Moi, j'ai des athlètes qui ont bien pigé, qui se sont dit bon, là, pour l'année prochaine, il y aura effectivement 2500 slots. Quand il y avait les femmes, c'était plus compliqué. Là, à mon âge, vu ma performance, j'aurais peut-être plus de chance à le faire. Et c'est la course, faut la vivre. L'ambiance du voyage, tous ces gens qui ont vécu au moins une fois à Hawaï en famille, c'est vraiment important. Tout comme on va aimer de pouvoir construire un peu ce mythe avec Nice, mais ça se fait pas comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que pour l'instant 4 ans c'est bien. moi, je sais pas, dans 4 ans, qu'est-ce qu'on, à quoi on pensera. Il y avait bien des personnes qui disaient un jour, ah ouais, ça sera Nice. J'ai vu des choses écrites hein, déjà là-dessus, mais bon, on peut pas savoir ce qui va se passer dans 4 ans. Hein.
Ouais, moi je voulais poser la question, j'aimerais avoir ton avis, Yves, en tant que directeur Ironman France, sur le développement de la PTO et puis notamment le rapprochement qu'il y a eu là récemment, qui a été annoncé en tout cas récemment avec World Triathlon, le prize money qu'ils offrent. Et voilà, selon toi, est-ce que c'est une menace pour Ironman? Est-ce que ça va avoir un impact sur bah, les pros en tout cas, sur les groupes d'âge peut-être? C'est un peu à toi de nous dire ton avis.
Bah, pour moi, il n'y a pas grand-chose de changé. Le PTO apporte beaucoup d'aide aux pros depuis maintenant 3-4 ans. Ils ont maintenant des courses. L'an dernier, il y en avait 3-4, là, cette année aussi. Donc, les courses vont simplement être accolées à World Triathlon. Mais bon, le système pour les pros va rester le même. Le price money a un petit peu changé cette année, il est un petit peu diminué. Mais encore une fois, le PTO n'existerait pas s'il n'y avait pas Hawaii, s'il n'y avait pas, on va dire, Ironman. Et je pense pas, en tous les cas, que ça soit un blocage pour Ironman d'avoir des courses. Voilà, il se trouve que là, la date entre le PTO de Singapour et les championnats du monde 70.3 était très serrée, mais aussi la date entre le championnat du monde 70.3 et les championnats du monde Ironman à Nice pour les hommes est aussi très serrée. Donc voilà, on a eu quasiment toutes les têtes d'affiche sur les femmes, mais moindre sur les hommes. Et ça, c'est le calendrier, hein. Je crois là qu'après, aujourd'hui,
ah, mais c'est, du coup, ça veut aussi dire, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut aussi dire que certains athlètes ont quand même favorisé le PTO Asie plutôt que les championnats du monde 70.3. Quand on prend l'exemple de Blumenfeld, Sam Long, Lunel Sanders et d'autres, ça veut dire qu'ils ont quand même fait un choix au final, parce que bah, typiquement, moi, la question s'est posée pour Matisse. Et bah, clairement, Matisse, il m'a dit, pour moi, ce qui est le plus important là, c'est les mondes de 70.3. Donc, c'était pas logique d'aller en Asie avant.
Pour nous, en tout cas. Ouais, Marjolaine aussi. Ouais. Marjolaine aussi. Mais si Blumenfeld avait gagné, on parlait peut-être pas comme ça. Et puis Lionel Sanders remontait fort quand même. Il faisait une belle course. Hein. Il était en train de remonter fort. Maintenant, je pense que c'est une occasion comme celle-ci. Maintenant, voilà, je pense que à terme, ces athlètes-là auront toujours envie d'aller faire Hawaï ou Nice, hein, puisqu'on parle de championnat du monde ou les championnats du monde en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Je pense que les plus embêtés là-dedans, ce sont les athlètes quand il y a des dates qui sont en conflit, quoi. Voilà. Maintenant, je pense qu'on essaie tous d'avoir une réflexion, en tous les cas, moi, dans mes calendriers, de pouvoir poser des dates qui conviennent le mieux aux exigences internationales et d'autres compétitions, quoi. Voilà. Donc, c'est la course PTO, c'est aussi un nouveau format pour moi qui va. C'est un nouveau format. Hein. C'est une course qui est vraiment très très rapide, qui va venir permettre d'attirer aussi des athlètes de la distance olympique. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on vivait nous dans le siècle dernier quand je faisais du triathlon. On faisait un peu de tout. On était capable de faire des distances totalement différentes. Et je pense que ça, c'est vraiment génial aussi, quoi.
Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à voir une réforme de Ironman avec son circuit pro, justement pour être pour s'assurer de toujours avoir une position pas de dominance, mais pas passer en arrière de PTO?
Je suis pas dans la réflexion de tout ça en tous les cas, mais bon, pour l'instant, je suis pas vraiment inquiet parce que je pense que bon, tu gagnes par exemple une course. Si on prend Jeanne qui est ici, elle va gagner la Super League. Mais bon, son rêve derrière, ça va être quand même de se qualifier ou d'avoir une médaille au jeu, quoi. Donc, je pense que je mets pas en parallèle l'Ironman par rapport au jeu, mais à un moment donné, quand tu brilles dans un domaine qui est à peu près similaire, bah, t'as envie de briller dans l'autre. Et c'est ce que Guldenfeld fait. Voilà. Et je pense que bon, s'il avait peut-être pas eu, bon, il avait annoncé qu'il avait un petit virus, mais son challenge de faire Paris, Singapour et pour lui, c'était vraiment de le gagner, parce que j'imagine bien que le guerrier, il a pas fait ça pour faire de la figuration, quoi. Et voilà. Bon, je pense que bon, ça fait progresser. Je pense que si Jeanne n'avait pas touché à la Super League, peut-être qu'elle aurait peut-être pas eu cette émulation pour poursuivre voilà, la distance olympique, et en tous les cas peut-être de progresser comme elle a progressé, et puis voilà, du coup elle brille aussi sur les deux terrains.
Donc on a énuméré un petit peu toutes tes activités. T'es aussi membre donc de la fédération en tant que vice-président. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein de la fédération?
Alors je suis vice-président en charge de haut niveau, donc je suis en fait le lien entre les athlètes, la direction technique nationale et les élus, et je veille à ce que le message sportif soit porté au plus haut, et que on va dire les intérêts quand il s'agit de prendre des décisions au sein d'un BE, au sein d'une fédération, puissent être on va dire mis en avant. Donc c'est pas toujours simple parce que on n'est pas sur un système direct, hein, voilà, il faut des voix, il faut faire passer, faut que tout le monde soit d'accord. Donc j'apprends, hein, enfin, je suis pas arrivé ici à la fédération comme ça, hein, j'ai commencé à la Ligue Côte d'Azur en 96 pour être après donc vice-président de nombreuses années, et voilà, j'aime aussi le milieu associatif, et je voyais pas en tous les cas dans ma vie toucher à tout sauf d'essayer d'être un trait d'union en tous les cas sur la haute performance et notre fédération. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. En tous les cas, je me réjouis des performances de l'ensemble de nos Français dans toutes les pratiques, hein, du triathlon. J'ai appris à bien connaître le travail de nos cadres techniques qui sont avant tout aussi des grands passionnés, des gens qui font beaucoup de choses, mais qui ont encore toujours à travailler pour avoir, on va dire, les bons liens avec les athlètes, les bons liens avec les entraîneurs. Mais bon, ça avance. Voilà, donc voilà, mon rôle est d'assurer sans... Enfin, je suis pas un homme d'une passion fédérale à me dire, voilà, je suis là pour briller, je suis là juste simplement pour essayer de faire avancer les choses, quoi. Et voilà, après, mon rôle est assez simple par rapport à certains vice-présidents, hein, puisque bon... il y a quand même une grosse machine qui est derrière. Moi, j'ai juste à écouter, à entendre, à suggérer. Voilà, il y a eu un gros debriefing à l'issue des Jeux en 2021 qui a permis de pouvoir écouter les athlètes, les entraîneurs, les cadres. On s'est posé, et puis avec ce fameux challenge de Paris qui arrivait. Et voilà, même si on avance bien, l'enjeu reste de taille pour 2024.
Avant de passer au tu préfères, une dernière petite chose. T'es encore licencié dans un club ou t'as une licence quelque part? T'es licencié?
Oui. Ouais, je suis à l'Olympique Nice Natation. Ouais.
Et on te revoit quand sur une course triathlon?
Eh ben, je peux plus courir. Voilà.
Ah, merci.
J'ai plutôt. J'ai...
La boulette. Allez.
Ouais,
la boulette.
Non. Je m'entraîne. En fait, je fais tous les jours quelque chose entre 6h et 8h du matin, toute l'année. Donc ça paraît un peu fou, mais ouais, je nage au moins 3 fois, je fais au moins 3 fois du vélo. Voilà, j'ai toujours voilà, par contre je préserve mes genoux, je pourrais peut-être un peu recourir, mais voilà, j'ai un peu d'arthrose qui voilà, donc je préfère continuer le sport qui est une pratique pour moi indéniable. Je pars rouler avec les lumières même l'hiver. Bon, j'habite à Nice, hein, mais je pars à 6h, j'arrive à 8h, je pars au boulot, je suis à 9h au boulot. Mais voilà, j'arrive à faire mes 15 000 km par an en vélo encore.
Ah oui, quand même.
Ouais. Je me challenge avec mon frère qui est maintenant à la retraite et on se challenge à travers le Garmin, savoir celui qui a fait plus de ventes chaque mois. Et voilà, mais bon, moi je suis plutôt à 330 par mois, par semaine, pardon.
On va passer maintenant au tu préfères. C'est Julien qui va te poser les questions. La règle, elle est simple. On va te donner deux options et il faut en choisir une. T'as pas le choix. Hein, et...
Ah, ça va être dur, ça.
Je pense que ça va être dur. On va laisser Julien te poser les questions. Allez, Julien.
Tu peux nous faire confiance, Yves. On a été gentil avec toi. On commence tranquillement. Est-ce que tu préfères Embrun ou est-ce que tu préfères Nice ?
Nice.
Est-ce que tu préfères Kona ou est-ce que tu préfères Nice ?
Nice.
Ok. Est-ce que tu préfères Nice en juillet ou Nice en septembre ?
Nice en septembre.
Ok. On passe sur un autre volet. Est-ce que tu préfères entraîner Jeanne Collonge ou est-ce que tu préfères entraîner Marjolaine Pierret ?
Oh, c'était vraiment méchant. On n'a pas le droit de...
Pas de joker.
Je ne peux pas répondre là. Non, je vais pas pouvoir répondre parce que ça a été tellement... beau avec Jeanne pendant 10 ans, j'ai vraiment été ravi. Et puis Marjolaine aussi, c'est quelque chose, voilà. Donc je peux pas dire là, je vais être très honnête.
Bah,
là,
tu veux prendre un joker?
Un joker, ouais.
Y a pas de souci, c'était prévu que tu aies un seul joker dans tout le questionnaire. Donc on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que tu préfères Dave Scott ou Mark Allen?
Mark Allen.
Est-ce que tu préfères Mark Allen ou Yann Frodeno?
Allez, Yann Frodeno.
Ok, est-ce que tu préfères Yann Frodeno ou Christian Blumenfeld?
Christian Blumenfeld me fait bien plaisir en ce moment.
Est-ce que tu préfères entraîner, s'entraîner, t'entraîner toi-même ou organiser?
M'entraîner.
Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères un plan d'entraînement sur papier ou un plan d'entraînement numérique?
T'es vache là, hein. Non, papier, allez, à l'ardoise même.
À l'ardoise, à l'ancienne, allez. Allez, on arrive sur les dernières questions. Là, ça va être des questions de rapidité pour toi, c'est pas difficile. Tu préfères courte distance ou tu préfères Ironman ?
Ironman.
Tu préfères challenge ou PTO ?
PTO.
PTO, tu préfères PTO ou Ironman ?
Ironman.
Tu préfères la FF3 ou tu préfères Ironman ?
Ironman.
Tu préfères Superman ou Ironman ?
Attends que je te renvoie, toi. Iron Man.
Bon, et puis dernière question, le triathlon, tu le préférais avant ou tu le préfères maintenant ?
Maintenant ?
Bah, merci Yves.
Ouais. Et bah, merci en tout cas pour ces réponses. Yves, merci pour ton temps. Et c'est toujours sympa d'avoir aussi des intervenants. On a l'habitude ici d'être assez pincant et c'est super aussi d'avoir tout le monde. Tout le monde est bien sûr le bienvenu sur le Trichot. Et on espère que tu pourras de nouveau venir. Et si un jour, t'entends qu'on dit des petites choses qui te piquent un petit peu, n'hésite surtout pas. Le Trichot te sera toujours ouvert,
bien
sûr. Un
grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation.
Et puis, bon courage surtout. Là, il te reste une petite dernière quand même pour la route. Là. Ton podium là, pour les championnats du monde.
Et si on se faisait comme les Allemands à la tire, hein, un petit podium.
Je crois que tu allais me dire des Allemands.
Un petit podium français, non.
Ah ouais, mais avec qui en tête? Ouais. Ça va être dur là de.
J'ai une profonde, on va dire, conviction que voilà, les Français vont nous challenger la course, mais qui, comment, je ne sais pas. Voilà, donc franchement, voilà, après. J'aimerais bien aussi que Frodeno soit aussi dans la course. Je dis dans la course, pas forcément gagner, mais je veux dire, sa carrière mérite en tous les cas de briller.
Lui faire prévenir l'arbitre qui récupère sa veste.
Ouais.
Non, pardon, t'as pas besoin de répondre à ça, Yves. C'était cadeau.
Mais voilà, moi, je souhaite que ça soit une belle course et puis... Voilà, je pense on a vraiment une dynamique en France qui fait que sur toutes les distances ça va bien, donc continuons comme ça et ça va nous faire grandir aussi notre sport, hein, vraiment.
Et tiens, on va en profiter pendant que t'es là autour de la table, là, le vainqueur pour vous de Nice, Alex.
C'est une question piège, j'aime pas ça.
Voilà, il va falloir 3 pages pour qu'ils me disent.
Ouais, il y a quelques noms que vous savez que je veux pas.
Mais non, mais on t'a pas demandé ça. On te demande qui gagne.
Ah, Léon toi. Chevalier.
Ah ben moi aussi. Ouais, c'est mon chouchou. Allez, petite pièce sur Léon. Julien.
Moi, pour l'histoire, j'aimerais bien Arthur Arceau.
Ah, ce serait beau. Ouais.
Donc moi, Clément Mignon. Allez, normal.
Allez, voilà, tu t'engages. Allez. Et toi, Amandine, alors ?
Moi, pour un podium français, je serais bien sur Arthur Orso aussi.
Moi, en bonus, je prédis meilleur temps marathon, allez, Denis Chevreau, meilleur temps vélo, Sam Ledlow. Allez, poum.
Tu lui poses une question, il ne sait pas répondre et il t'en répond à 12 que tu ne lui as pas posé. C'est incroyable quand même, cette histoire.
Allez, on va te libérer. Yves, merci encore pour ta venue dans le Trichot. Et puis, on se retrouve très bientôt. À très vite et bonne préparation.
Merci. Allez, ciao.
Et c'est parti pour le quiz du Trichot. Comme d'habitude, un quiz avec des questions auxquelles vous devez répondre soit le plus vite, soit sinon ce sera à tour de rôle. Et on commence tout de suite avec une question rapidité. Question rapidité. Qui a gagné chez les femmes en 2021 le triple mix Londres Super League?
Georgia, Cassandre Beaugrand. Ah, 2021 non. Attends, 2021, il y avait à Londres,
en
t'as
2021,
dit
chez les femmes, triple mix.
Flora Duffy ?
Non.
Non.
Rachel Clamart.
Attends,
c'est une Anglaise.
C'était à Londres.
Une Rosser.
Une Britannique à Londres.
Ah non, Jessica Lermont.
Oui, bravo. Et un point pour Julien qui mène cette...
Jessica Lermont, qui a eu un enfant d'ailleurs, et qui a encore une blessure à la hanche.
Ah, c'est bon, je l'ai eu, parce que ça devait arriver dans les jours à venir.
Encore une question qu'on n'a pas posée, quoi.
Elle l'a eu hier ou avant-hier, non, du coup? Parce que samedi, elle ne l'avait pas encore. Hein.
Ah, merde.
Non, mais je pense qu'il a voulu faire une annonce, mais elle ne l'a pas encore eu. Elle est juste à terme.
Question,
dans quelques jours.
Chacun son tour. Et on va commencer par l'invité, c'est pas l'invité du tout, par la nouvelle chroniqueuse du jour. Donc, on commencera dans l'ordre. Amandine, Jeanne, Alex et Julien. La question, elle est simple. Quels Français et Françaises ont été champions du monde de duathlon en distance standard? Donc, il faut me donner un nom, chacun votre tour. Amandine, c'est toi qui commences.
Johan Lebert.
C'est l'émotion.
Bah, il n'a pas été champion
du monde.
J'ai jamais vu un mariage tenir aussi peu longtemps, quoi. C'est fou, hein. 2 semaines après, un divorce.
Elle voulait qu'il l'ait été. Mais non.
Bon, Amandine,
au revoir. Tu peux aller à ton repas.
À toi, Jeanne.
Choker.
Alex. Et regarde pas sur Wikipédia. Hein.
Non, mais le duathlon, j'y connais rien. J'ai pas le temps de tout faire, moi, dans la vie.
Ah, j'en ai 3 là déjà. Attention.
Davidos, si jamais il avait fait un.
Allez, perdu. C'est perdu. À toi, Julien.
Moi, je dis Benoît Nicolas, mon fave.
Benoît Nicolas. Capitaine, je l'ai fait sans entrevue en plus.
Alors, attends. Oui, Amandine.
Nathan Gerber.
Ah oui, mais Amandine.
Mais toi, t'es éliminé déjà.
T'es éliminé en fait, Amandine. Quand t'as pas donné de
rien compris.
Alors, Jeanne, hors Nathan Gerber.
Mosbrug. Ah, mais il a gagné le championnat des jeux mondiaux. C'est les mondes.
Oui, c'est pas la même.
Non, bah Sandra Levenez alors.
Ça veut dire que si tu donnes. C'est trop tard, Jeanne. Si Julien, tu me donnes une bonne réponse, c'est bon.
Sandra Levenez ?
Non, mais d'accord.
Et voilà, c'est gagné pour Julien Pousson qui marque son deuxième point. Deuxième point.
Non, je ne suis pas d'accord. Il y a une médaille mondiale, Mosbrug, ça compte.
Je suis une marque.
Ah oui, non, mais là aussi, moi, je suis trop nul à ça.
En 2007, le binôme se lance dans une grande aventure et fonde sa marque.
Zérod.
Ah, oh, putain.
Qui a dit Zérod?
Bah moi,
c'est évidemment Alex qui l'a dit, c'est Alex.
C'est moi qui l'ai dit.
Ça va, les tricheurs, les deux, là.
Et Amandine, là, c'était une question en rapidité. Hein. Tu avais le droit de répondre.
Oui, bah, j'y réfléchissais.
Allez, on repart sur question. C'est la dernière question du quiz. Question un après l'autre. Donc, tu as le droit de donner une bonne réponse, Amandine, et tu commenceras, d'accord?
Et c'est pas une question de rapidité.
Oh non, je peux finir, s'il te plaît.
Je peux finir, d'accord, ok.
T'as moins de possibilités.
Bah oui. Ok. Eh bien, on commence tout de suite avec Jeanne Leher. Donc, Jeanne qui va commencer derrière Julien, Alex et Amandine, d'accord? Alors, il faut me donner les villes où se sont déroulés les championnats du monde 73 Ironman.
Non, mais d'accord. Donc, les championnats du monde, genre ce qui a eu lieu le week-end dernier.
Ouais. Ça peut être le week-end dernier.
Bon, bah, Lahti, alors.
Lahti, c'est bon.
Saint-Georges.
Saint-Georges, c'est bon.
Oh, fuck.
Las Vegas, Anderson.
Non, mais d'accord. Et Anderson, c'est bon. En 1910, là.
Amandine.
Nice.
Nice, c'est bon.
Peut-être un truc en Allemagne.
Allez, 3, 2, 1. Au revoir, Jeanne. Julien.
Je vais peut-être sortir une dinguerie parce que c'était il y a longtemps, mais Clearwater.
Clearwater, c'est bon.
Non. En 2008.
Alex.
Non, mais juste pour se la péter, ça. Juste pour dire, regardez, je sais un truc qui date d'il y a longtemps.
Ça doit être en Autriche ou Allemagne, Zamli, un truc dans le genre. C'était bizarre comme nom.
Alex, tu me dis quoi alors? Tu me dis quoi, Alex?
C'est pas ça? Zamli, je sais plus c'est quoi, dire. C'était bizarre, là, je savais jamais de l'écrire.
Oui, bah prononce-le.
Mais non,
vas-y.
Mais c'est en Allemagne ou en Autriche, là, c'est comme un.
Sinon, tu passes? Alors non.
Zamli, je sais pas. Bon, bah, j'ai perdu, mais je sais que dans mon idée, c'était en Autriche ou en Allemagne.
Amandine, c'est à toi.
Zelamzi,
c'est bon.
Oui, merci, Alex.
C'est ce que j'ai dit, putain.
Julien, toi. Non, Jeanne, t'es éliminée. Julien. Mais si, t'as rien dit, toi.
Non, mais si vous voulez, je peux encore jouer un peu.
Mais ils ont le droit de parler, les éliminés, ou surtout quand on a zéro point, on a le droit de parler ou pas? Non, mais pour savoir les règles.
Ça faisait le grand avec ses noms Clearwater, je vais peut-être dire une dinguerie et là ça sèche.
Moi je dirais.
Allez, Julien.
Klagenfurt.
Moi,
alors,
je sais.
Klagenfurt, non. Et Amandine, là, tu peux remporter un point. Tu peux remporter un point, Amandine, c'est à toi.
Entre en vie.
Eh ben, c'est une bonne réponse, c'est toi qui gagne le point, Amandine. Allez, ben, ça conclut ce quiz. On passe tout de suite à ce que vous allez regarder le week-end qui arrive. Alors, on va aller assez vite, hein, parce que c'est un épisode déjà qui a pas mal duré, mais il y aura... déjà la Super League Toulouse sur laquelle tu seras engagée, Jeanne, c'est ça?
Ouh, ouais.
Et tes ambitions là-bas, t'as des petits noms à nous donner? Tu les as déjà un petit peu donnés tout à l'heure, mais
bah j'aimerais bien gagner encore, c'était sympa, en plus je serais prête face à la maison, mais là franchement bon, j'y pensais déjà pas gagner à Londres, cela dit, mais je pense que les Français vont quand même être assez en forme. Et en plus, un peu plus frais que ceux qui ont déjà couru à Londres. Je suis déjà en train de me donner une excuse. Mais,
est-ce que c'est le même format?
C'est un triple mix ce week-end. Donc en gros, un triathlon dans le bon sens, un triathlon dans l'autre sens. Et la dernière manche, on part avec les temps de différence des deux premières épreuves cumulées. Et ça sera vélo, natation, course à pied. Et celui qui passe la ligne.
Alors, la chaîne du triathlon sera bien sûr présente sur place. Donc,
présentée par qui?
Alors, on ne sait pas encore. On peut pas le dire, mais on te l'enverra, c'est sûr. Peut-être, je vous dirai.
Je vais le représenter pour la course des garçons, mais avant, j'avoue que je serai peut-être un petit peu concentré.
Ouais, mais c'est normal. On aura aussi le Grand Prix de Quiberon, pardon.
Et oui, le Grand Prix de Quiberon de Division 1 et Division 2 qui aura lieu ce week-end avec, chez les femmes, Poissy Triathlon qui peut accentuer son avance, qui est déjà en tête, mais qui peut vraiment prendre
un atout, un pas sur la victoire. Et chez les hommes, quatre clubs qui sont en 9 points d'écart avec Saint-Jean-de-Mont, Triathlon Vendée, avec Poissy Triathlon, avec Liévin Triathlon et avec les Sables Vendée Triathlon. Donc ça va être une belle étape. En tout cas, moi, c'est une étape que j'adore, qui bronze. Et bah, c'est l'avant-dernière étape avant Saint-Jean-de-Mont, la finale qui aura lieu la semaine d'après.
Moi, j'aurais un petit œil sur les championnats du monde au Tilleul avec le binôme Hugo Tormento avec Max Anderson. Ça va être sympa. Entre autres, hein, puisqu'on a eu l'occasion de les rencontrer sur la Yota XP, c'est pour ça que j'en parle.
Et il y aura William Even aussi, Mathieu Poulain, il y aura aussi Sabina Rapelli qui est suisse, mais qui fait un binôme avec Eugénie Plane et plein d'autres. Donc on vous les citera bien évidemment sur la chaîne du triathlon. Il y aura également Gérard May sur lequel nous serons présents. J'ai pas encore eu les start lists définitives, mais a priori il y a des beaux noms qui devraient venir. Donc voilà, moi, pour moi c'est mon épreuve favorite en France avec l'Alpe d'Huez. Donc voilà, et je suis pas payé pour le dire.
Pas assez en tout cas, a priori.
Ou du moins pas assez, ouais, voilà. Ben, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu, un épisode vraiment intéressant avec le patron France d'Ironman et aussi vice-président de la Fédé, Yves Cordier. Si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, versez-nous des cafés, c'est important, ça permet d'avancer. C'est très simple, vous nous versez 1 euro, et ça nous revient directement et nous, ça nous permet d'investir dans les différentes plateformes, de payer un micro à Jeanne, etc. C'est des trucs qui sont... C'est des trucs qui peuvent être pas mal, franchement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous aux différents réseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale championnat du monde Nice 2023 Ironman. Donc, à bientôt. Bon week-end à tout le monde. Bonne semaine.
Ciao.